l'équipe du soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Émission du vendredi. Émission réussie. Sans plus attendre, présentons notre président du soir. C'est un visiteur du soir. On l'a adoré comme joueur. Vous l'aimerez comme entraîneur. Benoît Pedretti, président Pedretti. Bonsoir.
Bonsoir.
Benoît, vous avez connu peut-être des situations épineuses, mais ce soir, vous êtes président de l'équipe du soir. Vous devez noter les journalistes.
Ok.
Les corriger. Il y aura certainement des rixes et vous serez là pour prendre un petit peu de hauteur. Je vous présente votre ville-peuple, le président Pedretti. Nabil Djellit est dans la place.
Bonsoir Benoît, bonsoir à tous.
Bah, bonsoir président.
On a déjà pris des leçons en regardant le match Lens-Lorient. On a été un peu recadré technico, tactiquement et c'était très bien. Okay. Il a l'art de la transmission, pas seulement dans la passe, mais aussi par ses mots.
Ok, d'accord, très bien. Un peu de faillotage, ça fait plaisir avec le président. Hervé Penaud, Hervé, bonsoir.
Bonsoir Benoît, quel bonheur de le retrouver. C'est que j'ai travaillé avec lui. Moi, j'étais journaliste, lui joueur.
Alors, vous l'aviez noté dans ses années lyonnaises.
Il avait avec moi 8,6 de moyenne. Il a été meilleur joueur de la Ligue 1.
Faut que...
bon souvenir, n'est-ce
pas? Voilà. On n'y croit pas.
Ouais, ce soir, c'est votre revanche, Benoît. Pia Clément est dans la place. Bonsoir, Pia.
Salut tout le monde.
Bon, vous n'avez pas joué au Paris Saint-Germain, donc...
Alors, justement. Ah. Ouais, parce qu'en fait, quand on est supporter de n'importe quelle équipe, il y a certains joueurs dans la Ligue 1 qu'on identifie comme des poids. Moi, j'ai une petite boîte où il y a les poisons dedans. Donc, il y a Romain Fèvre, il y a Nolan Roux et il y avait Benoît Pedretti.
D'accord. Okay,
vraiment. Je savais, à chaque fois qu'on jouait contre lui, je savais que c'était lui qui allait ressortir du truc et qui allait nous poser des problèmes.
D'accord.
Vous aimez donc, enchanté.
Ils nous aiment tous, Benoît. Peut-être dans le dernier.
Non, pas
dernier,
beaucoup. Absolument pas.
Grégory Steller, bonsoir.
Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir à tous. Alors, quand je le vois, je ne peux pas m'empêcher de penser à Irénus Yélène. C'était l'arc et la flèche. Parce que l'arc, c'était Benoît Pedretti, la flèche, c'était Yélène. Ils nous l'ont fait toute l'année.
Ces années au Serboise.
Tout à fait. Vice-champion de France.
Ah ouais. Il s'appelle...
Troisième.
Ouais, mais maintenant, vous êtes président.
Ouais. Ça passe. C'est pas grave.
Ils vont vous dire deuxième. Même
quasiment premier, quasiment vainqueur.
Benoît, ça fait plaisir de vous accueillir. On va résumer votre carrière en 5 chiffres. C'est comme ça. Il faut aller à l'essentiel. 2023, 22, 2004, 2006 et 2016. Alors, 2003, c'est Coupe des Confédérations que vous gagnez avec les Bleus. 22, c'est votre nombre de sélections donc, en équipe de France. 2004, c'est la Coupe de la Ligue gagnée avec Sochaux, génération Pedretti-Fro, hein, les copains. 2006, champion de France de Ligue 1 avec l'OL, plus au passage deux trophées des champions, ça compte. Et puis 2016, champion de France de Ligue 2 avec Nancy. Faut-il ajouter aussi un autre titre de Ligue 2 remporté avec Sochaux en 2001? Votre chiffre préféré, c'est 2003, c'est 22, c'est 2004, c'est... voilà, quand vous refaites le tour de... Vous en souvenez plus trop de votre carrière, j'ai l'impression?
Si, non, je m'en souviens quand même. non, un peu tous, allez, 2004, parce que c'était avec, avec Sochaux, avec les copains, comme tu as dit, bah, formateur, ouais. Et puis voilà, le début de la carrière.
En 2017, dans l'équipe du soir, votre nom a été évoqué par un chroniqueur... ici présent. Alors en 2017, on remet dans le contexte, Monaco faisait une saison fabuleuse et ce soir-là, on disait, est-ce que Bernardo Silva, est-ce que c'est le meilleur joueur de Ligue 1? Attention, replay.
Privilégier le talent ou la classe pure, auquel cas Verratti ou Cavani, c'est peut-être un peu au-dessus. Moi, je voulais penser à quoi? Parce que là, quand vous amenez dans des trucs comme ça, c'est que vous allez nous sortir un blast terrible.
Moi, je sais.
Bah, en fait, vous savez? Moi, j'aime bien...
Qui?
Je trouve...
Le joueur de Nancy.
Ah, bah, par exemple.
Non, c'est vrai. Non, vous avez parlé avant.
Non, on en avait parlé il y a quelques semaines.
Non, mais on en a parlé il y a quelques semaines. Comme quoi, c'était pas circonstancié au débat.
Est-ce que vous pouvez noter le nom?
Non, mais
je sais, on en a parlé il y a quelques semaines.
Voilà, ensemble. Comme quoi, c'était pas circonstancié.
Donc, c'est qui?
Pedretti, par exemple.
Non, mais on l'adore, Benoît, mais pas le meilleur joueur de Ligue 1.
Attends, je suis en train de se marrer devant
son téléphone.
Je suis en train de redéfinir qu'est-ce que c'est que le meilleur joueur de Ligue 1. Il est clair que Bernardo Silva, bon, si dans Ligue des Champions, le Pedretti. Voilà, mais je trouve, moi, j'ai toujours une profonde considération pour des joueurs qui portent leur équipe. Et Pedretti, il apporte de A à Z. Il déclenche le pressing, il tire tous les coups de pied arrêtés, il distribue le jeu, il met les taquets, il fait la petite blague aux jeunes. Quand il est dans le couloir, quand le jeune est pas très bien, il répond au téléphone quand le gars qui est remplaçant depuis deux mois l'appelle.
Non mais et puis il tient le standard, donc il fait le meilleur.
J'ai commencé par vous dire.
C'est le SAV. Ça fait toi le meilleur joueur de Ligue 1.
Là, vous me folklorisez.
Critère un petit peu particulier.
Non, mais j'ai commencé par vous parler.
C'est pas un exposé, on n'a pas le temps.
J'ai commencé par vous parler du fait qu'il dirigeait le jeu, qu'il déclenchait le pressing, qu'il faisait tout ça. Je crois qu'en fait, s'il est plus là, Nancy plonge. Si Bernardo Silva n'est plus là, Monaco sera à peu près la même équipe. Okay. Je mesure ce que ça veut dire, mais ce sera à peu près la même équipe parce que Lemar est bien, parce que voilà.
Ok.
Ruffier, par exemple, à Saint-Etienne, pendant certaines périodes, est pas loin pour moi d'être meilleur joueur de Ligue 1.
Ok, il tente de se réconcilier.
Je suis inquiet. Hein.
Non, mais regarde, si là, il voit ce que je veux dire.
Si tes patrons à Libé te regardent, ils vont te mettre à la rubrique tennis de table.
Une bonne punchline d'Éric Blanc. Voilà. Bah, donc, on a appris le truc. Donc, Benoît Pedretti et l'idée du joueur qui dimensionne son équipe.
Voilà. Je me souviens de la petite blague qu'il avait fait aux jeunes parce que j'étais dans le couloir. En fait, c'était avant un match contre le PSG. Et pour les détendre, parce qu'ils pouvaient prendre une soupe, il avait dit aux gars, est-ce que vous avez pris le boulier pour compter les buts qu'on va prendre? Je me souviens, donc ça m'avait, il les avait un peu détendus comme ça. Donc
ils en avaient pris 7.
Non, ils en avaient pris 2, ils avaient 2-1. Donc c'était, je me souviens de la blague qu'il avait fait quand même.
Benoît, je vais pas vous demander, dire, bon, est-ce que vous êtes meilleur que Bernardo Silva?
Non.
Vous le dire. Non. Hein, mais la lecture de Grégory sur
les joueurs voilà. Qui portent des ouais. Équipes de ce, oui, non, de ce standing comme Savagné par exemple.
Je pense qu'on a compris.
C'est différent. On peut pas individuellement, on peut pas être meilleur. Mais par exemple, comme tu le disais, un joueur comme Savagné, c'est exceptionnel ce qu'il fait avec Montpellier. Tu l'enlèves de Montpellier, pour moi, c'est plus la même équipe. Mais c'est pas le meilleur joueur du championnat.
Oui, d'accord.
Mais c'est un joueur très important pour son club.
D'accord, très bien. Donc vous faisiez fausse route. Bah, mais avec grâce, avec bonheur, Grégory.
Non, mais comme Julien Ito à Reims, par exemple, c'est des mecs qui poussent, ou Julien Ferré à Confut intense. Il y a des joueurs, on fait pas attention parce qu'ils sont pas dans des gros clubs et tout ça, mais il faut mesurer l'importance qu'ils ont à un moment donné dans une équipe. Mmh. C'était juste ça.
Benjamin André.
Mmh. Ok. Ah, vous venez de faire une Dufy. Vous n'avez pas dit bonsoir, vous avez parlé. Tanguy Le Sévillier, faites très attention. Je vous donne la main, mon cher Tanguy. La 32e journée donc, de Ligue 1 est annoncée. D'ailleurs, on verra un but superbe ce soir de TJ Savanier, qui dimensionne vraiment le jeu de Montpellier. Hein. 2-0 ce soir, ça s'est passé à Bollard, entre Lens et Lorient. La question est la suivante, est-ce un résultat pour vous plus important pour Lens candidat à l'Europe ou Lorient candidat au maintien? On fera un petit tour de table, les petits, dans quelques minutes, mais pour l'heure, les images avec Tanguy.
C'est aussi un très bon résultat pour Eli Wahi, buteur ce soir avec Lens. C'était compliqué ces dernières semaines pour lui. Il profite du bon travail de Nampalis Mendy qui reprend le ballon dans les pieds de Tiemoué Bakayoko. Parvient à tromper Yvon Mvogo. Lens mène 1-0. Lens va se faire peur en fin de match avec ce duel remporté par Brice Samba face à Mohamed Bamba. Et puis derrière, quasiment dans la foulée, les Lensois vont inscrire un deuxième but et faire le break grâce à ce joli 1-2 entre Adrien Thomasson et David Pereira d'Acosta, le petit prince de la galette qui permet à Lens de creuser l'écart sur Marseille, 5 points d'avance et de mettre la pression sur Nice.
Voilà. Bah la question, interro surprise, c'est un résultat plus important ce soir pour vous, pour Lens ou pour Lorient? Habillage à la Lensoise, on joue à domicile, enfin ça joue à Bollard ce soir. Pia, vous me dites Lens ou vous me dites Lorient?
Lorient.
Lorient, ok. Greg?
Lorient comme ma voix.
Lorient 2, ok. 2 points pour Lorient. Nabil Djellit?
Sans surprise, je prends le chemin de Lorient.
Lorient, ok, très bien. Monsieur Penaud?
Je vais faire aussi un détour breton.
Breton, ouais. D'accord. Donc, dans le Ville-Peuple, vous êtes tous en train de me dire que Lorient peut encore se sauver.
Ah non, contraire.
Ah non, justement.
Justement. Ouais. C'est pour ça que c'est le plus important.
D'accord. Mais avant le match, vous pensiez qu'il pouvait encore se sauver.
Oui. Ah ouais.
Ah ouais.
Et d'ailleurs,
5 défaites consécutives, c'est la 6e.
Non, mais la lecture du match, parce qu'on voit le 2-0, mais ça se passe pas tout à fait comme ça. Déjà, il y a un but refusé pour Lorient. Mmh. On sait toujours pas pourquoi.
Mmh. Ah oui, ça c'est extraordinaire.
Incroyable. Alors, le coup de sifflet a lieu avant le but, mais vu le déroulement de l'action, on n'a pas la sensation qu'ils auraient pu faire quelque chose.
C'est une rencontre du troisième type.
Donc, il y a un but refusé. On l'a vu le face à face de Bamba. Si Bamba marque, déjà il égalise à ce moment-là. Ouais. Donc, Lorient, c'était pas une équipe qui explosait ce soir. Et on a senti quand même un Lens qui est en difficulté depuis quelques matchs. De toute façon, Lens, c'est pas le Lens de l'année dernière.
Lorient. Ce soir, c'est Ligue 2.
Non, c'est pas Ligue 2 parce qu'il reste. De toute façon, ça avance pas non plus à dominer. Mais ah ouais, Lorient, donc, ils ont le profil, malheureusement.
C'est le consensus mou ce soir.
Non, mais Lorient, ils ont malheureusement le profil. Ça arrive parfois en Ligue 1 de l'équipe qui joue bien et qui descend.
Bah, en général, c'est ça. Hein.
Et, non, mais il y a des équipes.
C'est le symptôme.
Qui descendent et qui jouent pas bien.
Non, mais le symptôme aussi de l'équipe qui descend, c'est.
Parce que moi, Lorient, par exemple, je les ai vus contre Brest, il leur avait mis un bouillon incroyable. J'ai rarement vu une équipe autant bousculer Brest que cette saison.
Eric Roy, elle est reconnue.
Et cette équipe, c'est Lorient. Donc en fait, il n'y a rien qui tombe pour eux en leur faveur. Et je suis désolé, l'histoire du pénalty, là, non pas du pénalty, du but refusé, moi, je serais quand même. Je pense que l'arbitre ou l'arbitrage doit des explications parce qu'à ce moment de la saison, pour une équipe comme Lorient, qui est tout en bas, au fond du trou, se faire retirer un but, c'est l'égalisation, Hervé, c'est ça?
Oui, égalisation.
Non, mais c'est un pas.
Le terme, c'était se faire enfler. C'est ce que vous avez essayé de polisser votre.
Vous savez, j'ai été très bien élevé. Ouais. C'est quelque chose que je reproduis partout.
On embrasse vos parents de la Belgique. Greg Schneider, je crois qu'on n'est pas allé à l'essentiel. Vous faites les gros
yeux. On va loupé quoi. De ce que j'attends, parce que je les ai vus, mais alors en 36e dessous. La situation, ah bon, mais je les ai vus. À la mi-temps, c'est un miracle. Ouais, il est tout seul devant le but. Il y a la frappe de Machado au-dessus. Enfin, très franchement, je les ai trouvés.
Qu'est-ce que vous avez fait en deuxième mi-temps?
Mais même en deuxième mi-temps.
C'était dur, non?
À la télé,
non, ça n'a pas été si dur que ça. Ils sont, très franchement, moi, j'ai vu une équipe perdue. Alors, si vous me dites qu'ils devaient tirer quelque chose ce soir, je suis un peu étonné.
Non, mais attends, Pierre, qui défend les causes injustes, non, mais... là et tout. Le but refusé, qu'est-ce que t'en penses?
Bah, la défense en soi s'arrête de jouer aussi. Donc, moi, j'ai.
Mais pourquoi il siffle, en fait?
Si un coup de sifflet, tu t'arrêtes. Enfin, j'ai après.
Non, c'est une incompréhension. D'autant plus que maintenant, on demande à l'arbitrage de laisser jouer et de revenir avec le VAR. Là, il a fait l'inverse. Il a sifflé avant et en revoyant les images, on n'a pas vu de faute. Hein.
Mais non, mais il n'y a rien.
J'aimerais juste votre arbitrage, cher président, parce qu'on n'est pas d'accord sur ce qu'on a vu ce soir. Sur. Moi, Lens, je les trouve un peu dans le dur. Je les trouve vraiment un peu. Ah, voilà. Et Lorient, je les ai trouvés plutôt pas mal, mais on n'était pas d'accord avec Grégory.
Lens, ils ont un petit coup physique, je pense, avec la grosse saison qu'ils ont fait, la Ligue des Champions, ça a puisé. Ils ont quelques blessés aussi, donc c'est normal qu'ils soient un peu moins bien. Et puis Lorient, comme on l'a dit, ils ont toute l'équipe qui risque de chuter, parce que quand on voit le but qu'ils prennent, encore une fois, c'est une paire de balles à 20 mètres de son but. Ils ont un face-à-face derrière qui ne marque pas, ils ont cette décision arbitrale qui est contestable aussi. On en parlait tout à l'heure, contre Brest, ils prennent le but à la dernière minute aussi, donc ils sont vraiment dans une passe très très compliquée.
On file à Bollard, tu as retrouvé notre envoyé spécial Timothée Mémon, le goûteur de frites. Voilà, et c'est dans si l'équipe de choc sur notre antenne. Bonsoir mon cher Timothée, pour vous ce résultat c'est plus important pour Lorient? Le Villepeuple dit tous Lorient hein, ce soir, il n'y a pas un truc important pour Lens qui s'est joué ce soir? Timothée, bonsoir.
Bah, bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Alors évidemment que sur un plan purement sportif, on peut considérer que c'est un énorme pas pour Lens pour essayer d'assurer l'Europe, mais pour moi c'est forcément pour Lorient que c'est le plus important, parce que sans plomber l'ambiance, la vérité c'est qu'une relégation, ça peut aussi être synonyme de plan social. Il y a aussi des gens dans les clubs qui travaillent. On sait qu'un footballeur fait travailler en moyenne un certain nombre de personnes, 8 à 9 personnes je crois, et que c'est des staffs qui sont réduits, c'est des équipes administratives qui sont réduites, et c'est des clubs qui vont vivre des moments difficiles dans une économie difficile. Donc forcément, bon, on peut pas occulter ça, et ce résultat est plus important en ce sens-là pour Lorient, parce que pour moi, contrairement à ce que j'ai entendu sur le plateau, pour moi leur avenir est scellé. Hein. Pour moi c'est réglé. Il leur reste 2 matchs, 1 contre Marseille, 1 contre Clermont. D'ici là, Le Havre et Metz auront eux 3 matchs à jouer, avec la possibilité d'aller, par exemple, ne serait-ce que grappiller un point ce week-end, et donc de se mettre à plus d'une victoire d'écart. Non, pour moi, c'est effectivement et indubitablement pour Lorient que le résultat est le plus important.
Nabil,
moi, je suis vent debout sur la situation. Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé sur le but refusé à Lorient?
Question pour vous, Timothée.
Bonsoir.
Non, alors effectivement, j'étais Nabil, bonsoir, avec Sébastien Bouet en tribune. On s'est posé la question, on s'est regardé, on a été surpris du fait que les Lorientais ne réclament sur le coup pas plus que ça d'explication, parce que clairement il n'y a pas eu de vindicte de la part des joueurs lorientais. La seule conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que potentiellement Bamba sur la ligne est tout à la fois derrière Samba, et que le fameux défenseur de l'équipe de Lens, lui, est possiblement hors du terrain. Ce qui expliquerait que Bamba soit en position de hors-jeu. Sinon, si c'est pas ça, et c'est peut-être pas ça, je comprends pas non plus.
Timothée, l'arbitre siffle avant.
L'arbitre siffle avant. Il siffle avant, oui, c'est vrai.
À mon avis, on donnera peut-être l'opinion, vous prendrez l'opinion de Régis Debry, qui arrive dans quelques minutes en conférence de presse. Pierre, vous n'étiez pas d'accord avec ce que vous avez entendu? On retombe sur nos pattes. C'est par rapport au constat de Grégory Schneider, ou alors vous voulez évoquer...
Non, par rapport au match de ce soir, je n'ai pas trouvé du tout que Lorient était à la rue. J'ai trouvé qu'il y avait certaines actions, certaines situations de jeu où on sentait la chape de plomb sur leurs épaules. Mmh. Ça, c'est vrai. Je pense par exemple à l'occasion de Louza, où il est tout seul face à deux défenseurs, et on sent qu'il se dit « c'est trop lourd à porter pour moi tout seul, c'est cette responsabilité ». Après, moi j'ai vu aussi le match contre Toulouse la semaine dernière de Lorient, et honnêtement, j'étais super déçue pour eux, parce que leur première mi-temps, elle était bien. Ils ont tapé la transversale, ils ont quand même des occasions. Ah, mais... Et puis on voyait aussi des joueurs qui n'avaient pas abdiqué. Abergel à la fin du match qui essaye d'aller parler aux ultras, qui est hyper touché par par la situation et tout. Donc je trouve qu'ils dégagent pas quelque chose d'un club qui a laissé tomber. En plus ils ont fait un mercato où ils ont changé la moitié de leur 11 titulaire cet hiver. Donc c'est vraiment tout nouveau. C'est quand même des investissements. Donc c'est pour ça que je suis quand même peinée pour eux là pour ce soir. Je trouve que c'est un peu dur quoi.
Mais donc c'est fini.
Non mais bah, ils ont
en fait il fallait qu'ils prennent 6 points absolument sur les 3 derniers matchs. Ouais. À cause de la différence de but et la différence particulière.
Non, mais Timothée, faites gaffe parce que vous parlez à Émile et on vous entend. Non, mais si, alors, si vous avez un retour et tout ça, je sais que c'est pas très agréable, mais le téléspectateur n'en a rien à faire.
Qu'est-ce qu'il en
est ? Ah, bah là, Timothée, Timothée, vous lisez là-bas. Timothée.
Non, mais dans ce cas, j'en profite pour vous dire ce que je voulais dire à Émile. C'est que j'ai aussi entendu dire que Lorient avait cette attitude malheureuse de l'équipe qui va descendre en jouant bien. J'ai beaucoup fait de matchs de Lorient cette saison. Lorient n'a pas que bien joué. Hein. Le Régis Lebris, certes, fait de belles choses, mais le Lorient de cette année, c'est pas celui de l'année dernière. Le jeu produit, il y a eu des bons matchs. Effectivement, le match de Brest est un exemple. Il y a eu quelques bons matchs contre des gros. J'ai même trouvé que lors de la claque face au Paris Saint-Germain, où ils se sont pris Dembélé et Mbappé en grande forme en travers du visage, bah, ils n'avaient pas démérité. Mais il y a quand même eu aussi un certain nombre de purges côté Lorientais, faut le reconnaître, je crois.
Benoît Pedretti est là, vous avez joué les titres, vous avez joué parfois des saisons où il fallait vous maintenir. Là, vous voyez des choses typiques d'une équipe qui doute, qu'une équipe qui joue son maintien. Lorient, oui, non, allons-y, opinion.
Oui, une équipe, président. Une équipe qui doute, le but qu'ils prennent, par exemple. Ouais, alors, c'est toujours une question, est-ce qu'on doit prendre des risques de continuer de jouer au football en étant à cette position au classement, avec des joueurs qui sont bien sûr en manque de confiance,
qui tremblent.
C'est un risque, qui tremble un petit peu quand le ballon arrive.
Ça pense au contrat.
Comment ?
Ça pense au contrat. C'est-à-dire la relégation, Lorient et tout ça. Est-ce que ça joue avec le classement ? Ça joue aussi avec la suite, c'est-à-dire la Ligue 2, ça veut dire...
Ah bah c'est sûr.
C'est
la vie d'un club qui joue là. Hein. Ils savent que la Ligue 2, c'est un autre monde par rapport à la Ligue 1. Ah, et aujourd'hui, les salaires vont diminuer. Comme on l'a dit, des gens vont sûrement devoir quitter le club. Donc oui, c'est très compliqué. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, le but raté en face-à-face, bah ouais, manque de confiance. S'ils marquent en faisant le même match, s'ils marquent, ils égalisent un partout et c'est pas le même résultat. On parle pas pareil en ce moment.
Parce que là, on est sur 4 points de retard. Hein. Parce que c'est 3 points plus le goal average.
Voilà, c'est ça.
Donc sur 2 journées, sur une équipe qui n'arrive pas à marquer.
Mais vous m'avez dit il y a quelques minutes que ce n'était pas fini.
Bah non, c'est pas fini.
C'est tout le contraire. La question, si bien savoir, c'est le plus grave pour Lorient.
Oui, mais quand je vous ai dit Lorient, c'est terminé, vous me dites non.
Non,
il y a encore de l'espoir.
J'ai dit oui. J'ai dit oui.
Ah, vous avez dit oui.
Ah, bah oui, d'entrée. C'est pour ça que je n'ai pas compris. Après, vous avez repris en disant, mais vous ne prenez pas de risque. Moi, je pense que c'est fini.
Je vous écoute plus, Hervé.
Ah, oui, mais ça, c'est
oui. Oui, ça commence à pardon.
Et non, mais avec 4 points de retard, c'est mort. Et puis, il y a une chose, il ne faut pas oublier à Lorient, c'est quand vous avez une défense dans cet état-là. Et que ça prend 2, 3, 4 buts à chaque fois. C'est la défense la plus catastrophique. Pour s'en sortir, il va falloir marquer chaque fois 2, 3 buts. Déjà, un, c'est difficile pour eux. Donc, je ne vois pas comment ils peuvent s'en sortir aujourd'hui. J'espère me tromper pour eux. Mais...
Ouais, mais moi, on ne peut pas enterrer une équipe à 2 journées de la fin. Ouais, mathématiquement, c'est encore possible. Marseille, c'est le Brésil à domicile.
Bah non, mais c'est pas mal à domicile, l'OM. C'est pas mal l'OM à domicile en championnat.
C'est pas un OM qui est sur le podium, par exemple. Quoi. Donc,
non, c'est pas. Non, mais bon, enfin, si. Non, mais pas la relégation. Non, et puis après, dernier match, c'est l'Orient.
Évidemment que Marseille est deux chances de gagner.
Il y a des dynamiques et on sent quand même que c'est une dynamique ultra négative. Alors peut-être que ça peut remonter, on sait jamais. Bien sûr, on peut toujours parier. Et là, aujourd'hui.
Peut-être que tu peux avoir un bon arbitre qui te laisse.
Tu perds pas 6 matchs de Ligue 1 à ce moment-là de la saison comme ça. Tu sais pas, à un moment donné, les mecs qui se lèvent le matin, pourquoi. Voilà, c'est compliqué.
Moi, ce qui m'intéressait, c'est la situation de Lens. Lens. Club historique de Ligue 1, Lens Francaise, un jeu huilé et tout ça, une saison formidable la saison dernière, un début de saison bon, qui était un peu cata en Ligue 1, puis il y a eu cette victoire contre Arsenal. Lens qui continue sa route, qui a, on va dire, un printemps européen, enfin européen en Dulinga. J'ai l'impression que là, la saison est longue.
Ils sont rincés.
Et dure. Et je ne sais pas s'ils sont rincés physiquement ou psychologiquement. Ils sont, j'ai l'impression qu'ils sont
mentalement
vidés.
Et physiquement. Mais les deux. De façon, les deux, c'est une équipe. Vous vous rendez compte, ces joueurs-là, il y en a plein qui ont découvert quasiment la Ligue 1, les anciens, là. Plus après, c'est un effectif qui est limité en nombre. Il y a eu des blessures. Et vous avez joué la Coupe d'Europe. Vous êtes sorti du premier tour de la Ligue des Champions. Vous êtes allé en Ligue Europa. L'échec de la saison, c'est la défaite contre Fribourg, parce qu'avec le match retour où là vous étiez pas loin, mais depuis ce moment-là, ça retombe parce que comme si à un moment
il y a quelque chose d'aggravant, c'est qu'ils ont été dans le dur dès août.
dès le mois d'août.
Ouais.
Ils prennent deux points en quatre matchs. C'est, pour eux, c'est quand même extrêmement compliqué à ce moment-là. L'intégration de Wai est pas simple, alors que tu sors quand même à Vokopenda qui te met des wagons de but. Donc ça a été, ils avaient un point en quatre. Donc ça a été pour eux, ils ont été dans le dur tout de suite. Ils ont été en situation d'urgence très vite. Donc je peux comprendre que ce soit long quand même. Enfin,
Après, ils sont repartis après.
Il faut une super dynamique après.
Juste un petit mot, je passe pas par la régie, mais je m'adresse directement à Timothée Mémon. Enfin, vous pouvez lui passer le message. Quid juste de Danso qui est sorti à la pause. Les adducteurs ont sifflé, ont craqué, voilà. Si Timothée pourra avoir peut-être un complément d'information, alors c'est médical. Il faut peut-être attendre un petit peu 24 heures ou 48 heures. Mais est-ce qu'il y a déjà un diagnostic, Timothée? Soit vous avez la réponse, soit on patiente et puis vous nous donnerez l'info un peu plus tard. C'est ça, Timothée? Vous l'avez ou pas?
Je pense qu'on va devoir patienter.
Ok, voilà.
C'est un peu tôt.
Docteur Mémon, merci. Merci beaucoup. Vous savez, je vais toujours avoir les infos avant qu'elles tombent.
On revient vers lui tout à l'heure, non?
Eh oui, on reviendra vers lui. Ne vous inquiétez pas, l'émission n'est pas terminée pour lui. Et la nuit n'est pas terminée pour Timothée.
On connaît.
Paris Saint-Germain, Dortmund, la défaite de Paris mercredi, donc en Allemagne, n'a pas provoqué, un gros doute chez les commentateurs. Hier, dans l'équipe, d'ailleurs, Claude Puel, qui n'est pas forcément réputé pour sa fantaisie, a même lâché ceci malgré la défaite. Oui, ce qui est très frustrant et encourageant, le PSG a montré qu'il était une meilleure équipe que Dortmund. Ok, très bien. Avec plus de possibilités de meilleures individualités. Dès que les Parisiens ont accéléré, il y avait du danger après dans l'efficacité. Ok, c'était pas ça. Sur ce climat, on va dire un peu tôt tranquille. Hier, le président a vidé l'équipe du soir, était à votre place, mon cher Benoît Pédetti. C'est la séquence replay, deuxième donc, avec Didier Roustan. Écoutez, il a un message à vous faire passer.
Moi, Dortmund, je les ai trouvés bons. Je trouve que chaque fois, ça ne dépend que de Paris et que Dortmund. On dit, bon, de manière, c'est pas... Et je trouve qu'ils ont des bons joueurs, qu'ils ont une tactique qui est bien en place. Je mets favori Paris, mais là où je les mettais à 75% à un moment, avant la double confrontation, tu vois, ben je les mets à 60, quoi, parce que Dortmund, ils peuvent te marquer un ou deux buts s'ils sont un peu plus adroits, et puis Sancho, quoi.
Et prenons à contre-pied notre président Roustan. Le match, donc, retour des pantiles uniquement du Paris Saint-Germain, cette question directe. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Benoît, vous allez assister à votre premier duel que vous allez arbitrer. On y va pour le jingle. Elle a dit oui, c'est Pia. Il a dit non, c'est votre voisin, Grégory Schneider. Pia, vous avez la main. Pourquoi avez-vous répondu oui?
J'ai répondu oui en toute humilité. Ça ne veut pas du tout dire que je pense que le PSG va passer. Ça veut simplement dire que je pense que le PSG a beaucoup plus de marge que Dortmund. Dortmund, ils ont vécu une saison un peu en dents de scie. Ils ont fait un de leurs meilleurs matchs de la saison. Leur défense, notamment, a été à un niveau élevé par rapport à ce qu'elle a pu parfois produire cette saison. Alors qu'au Paris Saint-Germain, nos milieux, notre ligne d'attaque et notre ligne de défense étaient en dessous de ses habitudes. Donc pour moi, la marge, elle est du côté de Paris. Je vais citer Ancelotti. Le Bayern a montré sa meilleure version. Pas nous. On a le temps de s'améliorer d'ici mercredi.
Citons les grands auteurs toujours. Grégory Schneider vous a écouté et va répondre.
Je trouve ça un peu irrespectueux quand même pour nos amis allemands. Alors on a l'impression que là, le PSG se lève le matin et tout va bien. Donc moi, je trouve pas que Adeyemi et Sancho se soient très inférieurs à Dembélé et Barcola. Je trouve pas que leur milieu de terrain soit inférieur au milieu de terrain parisien. C'est même plutôt l'inverse. J'aime mieux Schlotterbeck que Beraldo. Très franchement, je trouve ça un peu fort de café. Par rapport à ce qu'on a vu et les données qu'on a, de dire que le Paris Saint-Germain va apparaître et s'il est à son niveau, ça va bien évidemment passer. C'est pas respectueux envers eux du tout.
Ok. Vous êtes méchant, Pierre.
Non, mais j'aurais dit l'inverse.
Je suis pas du tout d'accord avec
le site, l'équipe à présent va trancher et le président va trancher, Benoît Pédetti, qui dimensionne ce duel? Est-ce Pierre Clément ou est-ce Grégory Schneider? Enfin, vous partagez quel point de vue?
Ah, je suis plutôt d'accord avec Pia. Désolé, Grégory.
Non,
avec tout ce que t'as fait pour moi, je suis désolé.
Le coup de poignard.
C'est vrai, il n'y a pas de souci. Non, mais quand même, t'as le droit.
Le coup de poignard de Benoît.
Il va rentrer à pied ce soir, Greg.
Bah oui.
Pourquoi? Quelles sont les raisons?
Non, parce que je suis un peu d'accord avec Claude Puel. Si Paris est un petit peu plus réaliste devant le but, c'est pas le même résultat. Et offensivement, Paris est capable de faire largement mieux. Offensivement, et quand je parle offensivement, je parle aussi d'Hakimi et de Nuno Mendes, les latéraux, qui ont moins apporté, on va dire, que sur le match de Barcelone. Donc ouais, je pense que si Paris a son meilleur niveau, Il devrait se qualifier, pour moi, même si Dortmund fait le même match.
Ce match s'est joué, c'est la petite musique qu'on entend, et vous la répétez, mon cher Benoît Prédetti, sur les occasions manquées du Paris Saint-Germain, mais quid des balles de 2-0 de Dortmund? Sabitzer 46e, 59e Brand qui est servi par Füllkrug, ce diable de Füllkrug, comme dirait Christian Jean-Pierre, 60e, et une tête pas cadrée à la 66e. Celles-là aussi, elles ont failli nous faire mal.
Moi, je suis assez surpris quand même, parce que la lecture du match moi, m'a un peu étonné. Je suis de l'avis de Greg, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a le Paris et puis ils sont tellement supérieurs aux autres que finalement, s'ils sont à peu près à leur niveau, mais c'est quoi leur niveau? C'est quoi? C'est le match aller contre la Real Sociedad, le match retour contre la Real Sociedad, c'est le match aller contre Barcelone, le match retour, c'est le match à Newcastle. C'est quoi? Aujourd'hui en Coupe d'Europe, ils ont perdu combien de fois?
Quatre fois
en Coupe d'Europe. Ouais. C'est pas rien. Ça veut dire quand même qu'il y a des lacunes dans cette équipe. Alors vous alignez les noms, vous dites lui il est bon, lui il est bon, lui il est bon, lui il est bon. Mais c'est pas ça. Collectivement, ce qu'a fait Dortmund, je trouve qu'ils ont super bien joué. On parle des occasions ratées, mais Füllkrug, ce qu'il rate, c'est plus difficile que ce qu'il réussit. C'est-à-dire que la balle arrive et il la rate. Et Adeyemi, Sancho, ils ont fait des trucs incroyables. Défensivement, ils ont donné aucun espace aux Parisiens. Donc ils peuvent tout à fait produire ce type de match au match retour, d'autant plus qu'ils ont un but d'avance. Paris me semble effectivement supérieur à première vue, mais maintenant, vu le match aller, je me dis, alors là, rien n'est gagné pour Paris Saint-Germain, il ne faut pas croire, parce qu'ils vont se remettre sur le terrain, on va dire, ben, Dembélé va se mettre à marquer des buts, par exemple.
Hervé, ce n'est pas inintéressant, mais oui, j'ai l'impression que votre voisin hausse les sourcils.
Ah non, mais moi, je suis à 100% d'accord avec Hervé et avec Greg.
Ah d'accord.
Parce que Dortmund, ôtez-moi juste un doute. Attends, ils ont été gagnés à Milan, ils ont été gagnés à Newcastle.
Non.
Attends.
Ils sont sixième de leur championnat.
Attends, ils ont été gagnés au Bayern. Non, mais sur le premier
tour. Ils ont déboîté l'Atlético Madrid, ce qui est quand même pas la portée du premier venu.
Non, mais Atalanta-Madrid.
Personne n'a dit qu'ils étaient nuls, autour de la table.
Ouais, je dis juste que par rapport faire croire qu'en fait, avec le PSG.
Niveau, ils étaient à un niveau qui était élevé par rapport à leur niveau à eux. Et que nous, on était en dessous de notre niveau.
Non, je suis pas sûr.
Excuse-moi, j'ai vu le match contre Leipzig du week-end dernier. Ils se sont mangés un 4-1 et Adeyemi, il était très loin du niveau qu'il avait.
Mais ils étaient pas dans le truc. Mais c'était comme si on.
Ils étaient bons contre Paris.
Le PSG, c'est pas le match du PSG contre Le Havre. On sait très bien qu'avant la Coupe d'Europe, ça se passe
avant
comme
la compète.
Bien sûr,
avant le match, il y en a quand même qui disaient, attends, mais c'est extraordinaire. On est quand même en demi-finale de la Ligue des Champions et on ose dire, ah non, mais dans l'équipe de Dortmund, je vois aucun joueur qui peut jouer au PSG.
Ça, c'est dingue.
Après le match, moi, j'en ai vu quelques-uns.
Qui a dit ça?
Peut-être pas. J'ai entendu, sur le papier, prends-moi un joueur de Dortmund, lequel peut jouer du côté. Hummels, c'était un tracteur, si j'en écoute certains. Emre Can, personne n'en parlait. Tout le monde a redécouvert qui était Sancho et Adeyemi. Personne n'en parlait avant le match. Personne. Je dis pas que c'est Manchester City, mais à un moment, il faut arrêter l'enflammade. Le PSG, c'est pas une grande équipe, c'est l'histoire d'un parcours avec de la réussite.
Dernière intervention, puisqu'on va continuer le débrief avec un invité surprise.
Ah, d'accord.
Eh oui, vous êtes journaliste, ancien joueur, passionné, ok. Là, j'ai voulu avoir peut-être un autre profil pour nous parler de ce débrief de Dortmund PSG. C'est un analyste vidéo, c'est Cédric Taforo. Cédric est en direct avec nous, de son domicile. Bonsoir Cédric.
Il n'a pas joué latéral gauche.
Bonsoir.
Bonsoir Cédric. Alors vous avez travaillé à l'OM, vous avez travaillé pour le Maroc, la Côte d'Ivoire, vous avez également travaillé avec Hervé Renard, donc en Arabie Saoudite. Première question, l'homme clé du Borussia, c'est Mats Hummels, joueur que vous connaissez durant vos années OM, puisque l'OM avait déjà croisé la route de Dortmund. Et ça s'est confirmé encore mercredi soir, mon cher Cédric.
Oui, l'homme clé. C'est marrant d'entendre ça sur un défenseur central. L'homme clé, la clé du match, Mats Hummels. Souvent, le défenseur central est la clé quand il a des lacunes et qu'on veut appuyer sur ses points faibles. C'était un peu le cas en avant-match, où tout le monde mettait en lumière, comme le dit très justement Nabil, le manque de vitesse de Mats Hummels. Et bon, il a plus les jambes de ses 20 ans, mais ça n'a jamais été sa première qualité. Par contre, il y a quelque chose qu'il n'a pas perdu depuis ses débuts à Dortmund et cette génération qui était en train d'éclore avec Götze, Reus, Lewandowski, c'est sa qualité de pied et de relance. C'est-à-dire qu'on a un meneur de jeu reculé et si Mats Hummels, il n'est pas un peu perturbé, le ballon, il le met où il veut, dans le bon tempo, parce qu'il a cette qualité de passe, mais il a aussi cette lecture et cette intelligence à trouver toujours le bon intervalle, et quelque part, il arrive à faire un décalage très tôt sur le terrain, s'il n'est pas mis sous pression et pas contrarié dans sa première relance.
Justement, Cédric, qu'est-ce qu'avait mis en place donc Luis Enrique, coach du Paris Saint-Germain, et qu'est-ce qu'a peut-être pas fonctionné, ce que vous avez pu observer en toute tranquillité.
Oui, pas fonctionné, parce que après, Luis Enrique, c'est quand même un grand entraîneur, il a gagné la Ligue des Champions, c'est un grand joueur, donc en toute humilité, on ne vient pas juger un choix, mais plutôt essayer de comprendre, parce que je ne peux pas imaginer que Luis Enrique, il est venu jouer une demi-finale de Ligue des Champions et qu'il est arrivé les mains dans les poches sans connaître Dortmund, ses points forts, ses points faibles, et avoir son idée pour les perturber. Je voudrais, moi, qu'on s'intéresse à la position de Dembélé. Quand on voit la compo de Paris, je pense que tout le monde s'accordait à dire que c'était la bonne compo d'équipe, les 11 que tout le monde aurait coché au début de match. Bon, il y a le choix des joueurs, le système, mais le système, quelque part, il va évoluer en fonction déjà du profil des joueurs que vous choisissez. Parce que selon le profil, ce système ne va pas dire la même chose. Et ensuite, finalement, aux instructions, au plan que vous allez essayer d'élaborer pour déjà contrarier la sortie de balle de Dortmund et donc de Mats Hummels. Donc quand on voit la position de Dembélé, le choix qui a été fait finalement, c'est de couper la relation avec Emre Can. Ouais. Et on peut se dire, pourquoi pas, on évite... on les perturbe et on limite leur sortie plein axe. De mettre Dembélé directement dans cette position sur ça, on l'économise peut-être au niveau des courses vers l'arrière, puisqu'il ne suit pas le latéral, c'est Zaïm Emery qui va décaler sur le côté droit et ils vont gérer donc ce côté gauche de Dortmund. Après, là, tactiquement, il y a peut-être aussi une surprise. C'est-à-dire que quand on prend le dernier match de championnat du Borussia, Sancho et Adeyemi, ils ne jouent pas sur les mêmes côtés. Ça veut dire qu'en face aussi, ça travaille. Et l'entraîneur de Dortmund, il se dit, côté fort de Paris, dans l'animation, j'ai Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé, je sacrifie un peu Adeyemi offensivement, mais je sais qu'il va me faire les courses pour défendre sur Hakimi, et j'y demande de fermer ce couloir, et je laisse Sancho avec un peu plus de liberté de l'autre côté. On peut dire que côté Dortmund, ça a pas mal fonctionné parce qu'on a vu quand même Adeyemi faire de nombreuses courses et revenir à maintes reprises dans ce couloir droit et annihiler un peu cette force parisienne. À l'inverse, cette position de Dembélé peut être intéressante parce qu'aussi à la récupération du ballon, vu qu'on n'y a pas demandé cette course défensive, Paris peut récupérer et on peut l'imaginer lui fuir Emre Can et aller sur ce côté et obliger ce Derbeck à sortir en couverture, et là on se retrouverait avec un Mbappé en un contre un avec Hummels, et ça c'est pas inintéressant. Donc le choix d'Enrique, il se défend, et en mettant Dembélé au départ là, dans l'axe, il est en plus un, puisque lui il en a trois. C'est que quand le ballon part côté, que ou Zaïre Emery ou Ruiz vont aller compenser le déplacement par rapport au ballon.
Cédric, mais le souci qu'ils ont... Cédric, vous m'entendez?
Oui.
Cédric.
Oui,
pas inintéressant, oui. très riche, mais tout va bien. Je vous laisse juste reprendre un petit peu votre souffle, juste pour avoir une petite respiration et des petits commentaires sur ce que vous avez dit sur le choix de Luis Enrique d'aller perturber, on va dire, plutôt Can et plutôt que Mats Hummels. Est-ce que là, il y a quelque chose qui... Voilà, il y a peut-être, une erreur.
Non, pas une erreur, c'était un choix, mais ouais. Il va peut-être sûrement s'adapter, comme il l'avait fait contre Barcelone, au retour où il avait laissé Aroro faire les relances et bloquer Cubarsí. Donc c'est ça qui va être intéressant, et quand on parlait tout à l'heure de ça dépend de Paris, ben c'est aussi la capacité de réaction de Luis Enrique, qui pour moi est un gros plus par rapport aux années précédentes, où il apporte énormément de confiance, il perd le match, il est tranquille, après Barcelone c'était pareil, et ça rejaillit sur tout le monde.
Il est stable.
Question pour Cédric Taforo, Hervé Penaud, réflexion peut-être.
Qui amènera une question. Réflexion par rapport au jeu de Dortmund lui-même. C'est-à-dire, je suis pas certain aussi que du côté Paris, on s'attendait à les voir aussi bien en place et tactiquement aussi précis défensivement, notamment en prenant très peu de risques finalement. Et après, en jouant sur la vitesse des.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Parce que c'est une équipe qui, d'habitude, on pense toujours que les équipes allemandes, notamment Dortmund, c'est une équipe qui s'ouvre pas mal et qui prend pas mal de risques sur des transitions rapides. Ils se projettent assez vite et ça aurait pu dégarnir un peu. Et la sensation, par exemple, ils ont fait très peu de pressing dans leur camp, ils sont mis très bas pour essayer justement de laisser le moins d'espace possible, pour éviter de laisser l'espace derrière et laisser de l'espace à la vitesse des joueurs de Paris, parce qu'on sait qu'ils vont très vite, ils sont capables de percuter en éliminant. Et d'une certaine manière, Paris s'est retrouvé un peu bloqué. Et est-ce que Cédric n'a pas l'impression qu'aussi ils ont peut-être été surpris par la manière dont Dortmund a abordé ce match-là?
Oui, tu as raison, et Benoît a dit quelque chose de très juste aussi, c'est s'adapter. Et justement, j'allais y venir. Si vous voyez, on a parlé de cette sortie de balle Donc sur le côté gauche, on avait Mbappé qui se collait sur Soderbergh, Dembélé sur Chan, pour perturber cette relance. Mais quand ça partait côté droit sur Hummels, c'est Barcola qui était obligé de sortir sur Hummels. Et donc après, si Barcola il sort, mais il est avec un temps de retard, logiquement, puisqu'il a une position un peu excentrée au départ, il arrive avec un temps de retard. Une fois qu'il est sorti avec ce temps de retard sur Hummels, Ruiz, il a deux choix. Soit il sort sur le latéral, si le jeu le demande, soit il sort sur Sabitzer, qui lui s'est adapté, et vous avez bloqué Sam, mais Sabitzer, il décroche, et donc Ruiz, il fait quoi? C'est jouable, hein. On peut se dire, Barcola, il sort faire jouer Hummels, Ruiz, il coulisse sur le latéral droit, et du coup, Vitinha, il sort, mais ça oblige le central après de Paris à venir coller sur Brandt et l'autre central à se retrouver au 1 contre 1. Je veux dire, tactiquement, c'est jouable, mais il faut qu'il soit au contact et qu'il colle. Et on voit bien que sur ce match, même quand l'attaquant décrochait côté Dortmund, il avait 20 mètres, il faisait des décrochages de 20 mètres, il était dos au jeu, il n'y avait personne au contact, il pouvait remuser. Et c'est là où Paris a un peu pêché, c'est qu'ils ont été loin chaque fois du porteur et dans le cadrage. Et donc Dortmund a pu sortir quand même avec une certaine facilité et a pu faire jeu égal sur ce jeu de possession avec Paris. Donc oui, Dortmund, ils sont adaptés à la contrainte et à la problématique que leur a posée Paris. Mais à l'inverse, je trouve que les joueurs de Paris, à un moment donné, c'est eux qui ont la vérité sur le terrain. L'entraîneur, il met quelque chose en place, mais c'est eux qui ont les clés, c'est des grands joueurs. C'est à eux aussi de s'adapter, de prendre les décisions pour arriver à régler ces problèmes. C'est eux qui ont la solution sur le terrain, à un moment donné.
C'est vrai qu'on va marquer une petite pause. On reviendra avec vous, parce que moi, j'ai une solution à vous proposer, et dont Luis Enrique. J'ai un nom à vous proposer, mais ça sera dans quelques minutes pour le match retour. À tout de suite.
Ramos. Ah.
Mes amis, un vent de panique, on a appris à la pub que Grégory Schneider rentrera à pied ce soir. Si vous avez une bonne âme, si vous passez dans le coin de Boulogne-Billancourt, peut-être aller chercher Grégory Schneider pour le ramener chez lui. Trêve de plaisanterie. Et Cédric Taforo est avec nous, il est analyste vidéo et il nous donne son regard sur ce Paris Saint-Germain à Dortmund. On a compris que finalement, il y avait beaucoup de choses qui étaient extrêmement mécaniques, extrêmement bien huilées du côté de Dortmund. Que finalement, le pressing de Dembélé recentré, c'était plutôt pour Chan, et on aurait peut-être préféré que ça soit Hummels. Et juste avant de passer à peut-être une solution qu'on offre, car on a une émission extrêmement généreuse à Luis Enrique, qui nous écoute.
Ah, bah, bien sûr.
Pierre Clément avait une réflexion sur ce que nous a dit Cédric. Alors, oui, c'était quoi, c'était quand, c'était où?
Bah, parce que Cédric, il nous a super bien expliqué, en gros, le plan de Luis Enrique. Mmh. Et justement, ce plan-là, c'est là qu'on peut avoir une déception par rapport à Luis Enrique juste sur ce match-là. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que, en fait, tout le côté gauche du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire Nuno Mendes, Fabian Ruiz et Barcola, je pense, sur ce match, n'ont pas bien intégré tactiquement ce qu'ils devaient faire. Et en fait, on a senti vraiment un côté gauche beaucoup plus faible que le côté droit, parce qu'à droite, tu as Hakimi, tu as Warren Zaïre-Emery qui, tactiquement, franchement, est incroyable, et Dembélé qui a quand même été déporté sur la droite.
Tu veux dire que c'est du côté de Ruiz que ça va pas,
en deuxième mi-temps? Bah, pas que Ruiz. On les a vus en difficulté, et c'est vrai que je me suis fait parfois la réflexion. On nous a dit il n'a pas mis Ramos parce qu'il ne voulait pas que Kylian Mbappé se retrouve devant Nuno Mendes et le mette en difficulté parce qu'il ne défend pas. Mais d'avoir un joueur de cette trempe comme Kylian Mbappé, qui pour le coup a une notion tactique hyper complexe et aurait très bien compris la situation, ça aurait quand même pu aider. Et c'est pour ça que, effectivement, le fait qu'il y ait cette solution miracle en deuxième mi-temps, ça aurait peut-être été bien.
Mardi prochain, mon cher Cédric, seriez-vous étonné si Gonzalo Ramos occupait donc le poste de numéro 9, toujours dans l'esprit, on va dire, de contrecarrer ou de mettre un peu sous pression le fabuleux relanceur qu'est Mats Hummels? Est-ce que c'est une idée peut-être à creuser, à surveiller ça? C'était ma question.
Bien vu.
Oui, ça peut être une idée à creuser, mais j'ai envie de dire aussi bien Ramos que Colomoni. Je peux même te dire que tu leur demandes de gros efforts, et même si le premier fait que 50 minutes pour multiplier les courses et gêner cette première relance et contrarier un peu Mats Hummels dans ses prises de décision, parce qu'il a eu beaucoup d'espace et de temps, et du coup il a trouvé les bonnes passes qui ont permis justement sur ce côté de faire le décalage. Et en effet domino, Paris a toujours couru finalement sur ce temps de retard et n'était jamais dans le bon tempo pour arriver sur le temps de passe et cadrer le porteur et contrarier les sorties de balles de Dortmund. Donc oui, te dire je mets un attaquant de pointe, j'y demande de gros efforts défensifs et de pressing sur, sur cet axe central, pourquoi pas? Et ça amènerait aussi peut-être un peu plus de situations de 1 contre 1 et de liberté à Mbappé, qui quand tu es dans l'axe, ce n'est pas facile. Tu as deux joueurs souvent qui te surveillent, tu as moins de possibilités de faire la différence et de faire parler ta capacité à éliminer dans l'axe que sur un côté. C'est sur le côté qu'il est quand même le plus facile de trouver des situations de 1 contre 1. Donc oui, ça peut être une option, mais je pense qu'il l'a envisagé. Et qu'il y a pensé, il ne nous attend pas.
Cédric, il y a un chiffre que voulait peut-être vous soumettre, ou vous avez peut-être un truc, un chiffre que vous avez repéré, président Pedretti, c'est le nombre de kilomètres parcourus.
Ouais, c'est une différence d'à peu près 10 km.
10 km, entre les deux 120 clubs. Pour Dortmund, 110 pour le Paris Saint-Germain.
C'est un peu moins, je crois.
198,1 pour le Paris Saint-Germain, donc sous les 100, ce qui est assez rare. Et 106,5 pour le. Donc c'est plus près de 8 km que de 10.
Je ne connais pas cette radio.
Je tenais à le dire parce que j'ai regardé, j'ai mis le nez dedans, et c'est 8 km, c'est pas 10. Donc faut pas
c'est 8 km.
Bon, c'est 8 km. Bon, 8 km 4. T'as les intensités ?
Je ne connais pas.
Alors les intensités, oui, tout à fait. Les courses à haute.
Non, mais
les courses à haute. Sprint à très haute intensité, il se trouve que le PSG en a fait 3 de plus. C'est 73-70. Donc, comment on peut interpréter ? Ce que je veux dire, c'est qu'il faut. Il ne suffit pas de dire, regardez, ils ont moins couru, ou c'est quand même un peu plus compliqué que ça, ce que l'analyse va nous dire, c'est ou ce qu'un joueur sait, il me semble.
Oui, bah oui.
Mais en tout cas, je ne voulais pas qu'on les traite de feignants. Enfin, ça me semble un peu. Faut pas dire ça. Enfin,
non, tu le sous-entendais tout à l'heure.
Mais je peux poser une question à Benoît ?
Vous pouvez poser votre question. c'est sur ça, parce que sinon, j'allais enchaîner avec Cédric, ce qui
pose de la sur les de courses. Sur les courses.
Kilomètres parcourus, est-ce que vous avez peut-être quelque chose que vous avez repéré ou pas en regardant, ou quelque chose de très empirique, Cédric ? Bah, à vous de jouer.
Kilomètres parcourus, c'est important. Mais c'est comment tu cours aussi et où tu cours. Et Dortmund a effectivement couru plus, mais j'ai l'impression qu'ils ont été plus proches les uns des autres, et les courses qu'ils ont fait, ils les ont fait aussi en fonction de leur partenaire pour garder ce bloc bien compact. Paris, on en a parlé précédemment, finalement ils ont couru après leur temps de retard et se déplaçaient toujours par rapport au ballon, et ils étaient en réaction par rapport au choix qu'avait fait Dortmund. Eux, ils étaient obligés de compenser, donc ils ne pouvaient pas être dans l'anticipation, et ils se retrouvaient quand même à faire des courses où ils étaient plus loin les uns des autres. Dortmund a été compact, et on avait cette sensation qu'ils arrivaient à mettre plus de densité autour du porteur, et c'est ce qui a gêné aussi le milieu parisien, et où on a vu un Vitinha, un Zaïre Emery ou un Brian Ruiz qui est moins rayonnant avec ballon, et il y a quand même beaucoup de pertes de balles de Paris dans l'entrejeu.
D'accord, ok.
Et ce donc... qui a permis à Dortmund finalement d'avoir ces cartouches offensives et ces phases de transition où il pouvait profiter des équilibres à la récupération, ce qu'a moins eu Paris. Ce Paris n'a pas eu la profondeur parce qu'aussi, quelque part, ils ont moins récupéré de ballons dans les pieds dans cette zone du milieu de terrain qui leur aurait permis de profiter des déséquilibres et des positions hautes des latéraux et des centraux écartés, parce que quand tu sors le ballon, tu es forcément écarté. C'est quand même plus simple quand tu récupères le ballon à mi-terrain pour mener une attaque rapide, quand tu la récupères près de ta surface et que tu as 80 mètres à faire, où là, la première passe doit être impeccable au bon moment, il doit y avoir de la verticalité dans les passes, dans les courses, jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Ce n'est pas évident à mener un contre de 80 mètres.
Donc
ce déficit à la récupération, ça a eu une incidence aussi sur le jeu offensif de Paris.
Donc c'est courir plus, mais ce que vous nous dites, là, comme notion, c'est courir mieux. Cédric Taforo, analyste vidéo, sur... ce match Dortmund-Paris Saint-Germain. On continue donc le débrief. Cédric, première intervention, merci beaucoup. Souhaite une bonne
merci
soirée. Merci d'avoir fait partager votre sensibilité et vos connaissances. On rebondit avec Nabil Djellit. Nabil, je ne vous ai pas oublié. Vous êtes dans mon champ de regard. Vous aviez une question à poser au président Pedretti.
Ouais, alors, moins sur la tactique, mais plus sur le choix des hommes et du management. On parlait de Dembélé à contre-emploi dans l'axe. On parle aussi de Mbappé, non pas à contre-emploi dans l'axe, mais pas forcément dans la position
quand même.
Qu'il préfère. Puisqu'on sait. Toi, ton sentiment là-dessus, est-ce que ces joueurs-là, tu les aurais positionnés là pour un des matchs les plus importants de la saison, c'est-à-dire pas dans leur position préférentielle ?
La question est vraiment anglaise.
Non, mais c'est...
Pour vous, Luis Enrique, il y a trop de flexibilité.
Il dit Luis Enrique, c'est une grosse valeur.
Après, on ne les voit pas au quotidien. Ouais. Ça, c'est, voilà, c'est facile pour nous. On les voit que qu'après le match. Et là, on se dit, oui, bien sûr qu'on aurait préféré peut-être voir Ramos en neuf et Mbappé sur un côté. Mais Luis Enrique les voit au quotidien. S'il a fait les choix là, c'est que il pense que c'est les meilleurs. Mais bien sûr que quand on revoit le match, on se dit qu'un attaquant de pointe vraiment reste en étant dans la surface, ça aurait été vraiment intéressant parce qu'Mbappé, il s'écarte beaucoup à gauche. Il a pas mal dézoné. Et finalement, il manquait une personne, voilà, dans la surface pour finir.
Je vous écoute, hein, et deux, trois fois, en fait, m'avez corrigé quand j'ai dit erreur, m'avez dit non, c'est un choix. Mm. Hein? Vous, non, mais c'est vraiment le langage des entraîneurs que vous êtes là actuellement. Mais vous me dites ça. Il y a des choix, bah, des choix qui sont payants, des choix qui ne sont pas payants, mais il n'y a pas d'erreur, en fait. C'est le logiciel de l'entraîneur.
Exactement, c'est pas une erreur qu'il a fait. Alors après le match, c'est facile de commenter. On commente tous, on a tous la solution miracle après le match. Hein. Mais avant le match, oui, lui, il les voit, il a décidé de mettre une tactique en place. Et voilà, ce qui va vraiment m'intéresser, c'est le match retour. Mm. Qu'est-ce qu'il va mettre maintenant en place pour essayer de contrarier? Est-ce qu'il va continuer dans la même chose? Est-ce qu'il va rajouter cet attaquant axial? Est-ce qu'il va décaler Mbappé? Est-ce qu'il va modifier son milieu de terrain? Et c'est ça qui est intéressant.
C'est vrai que par rapport à ce qu'il dit, c'est vrai que les centres, ils les ont eus. Le PSG a eu énormément de centres qui ont été coupés par les joueurs de Dortmund, mais il a manqué quand même un point.
Présence dans la surface.
Ouais, il y a ça, on peut pas dire l'inverse.
Et c'est pas la première fois de la saison.
Enfin, les centres à ras de terre, tu peux avoir, t'as Hakimi qui frappe le poteau, t'as Dembélé en fin de match qui doit la mettre au moins cadrée. Je vais remarquer, alors pourquoi pas, mais au moins cadrée, la balle d'Hakimi, c'est un cadeau. Ruiz aussi.
De la tête, il a deux occasions de la tête, Ruiz, et j'aimerais quand même le dire par rapport à Matsumez, merci. C'est deux ouvertures de Marquinhos qui arrivent de derrière et qui sont franchement fabuleuses. Mmh. Moi, juste un petit truc sur
vous avez gagné contre Grégory, 53-40.
Ah, trop bien. Ah, c'est pour ça qu'il y a... C'était juste quand je parlais, il y avait le pain qui chantait.
Non, mais il y a la lumière quand vous parlez, tout va bien. Non,
juste un petit truc par rapport au match retour. Moi, je me dis...
Pas tout le monde bat Grégory.
Je me dis... moi, ce que j'aimerais presque juste que Luis Enrique peut-être propose, c'est qu'il s'adapte moins à Dortmund, mais qu'il soit plus en phase avec ce qui marche au Paris Saint-Germain. Et je pense que comme sur le papier, juste comme ça sur le papier, on est censé être un petit peu au-dessus, jouons notre jeu, en fait. Ne nous mettons pas Dembélé dans l'axe parce qu'on veut bloquer les relances de Matsumel. Jouons notre jeu.
Ce qui marche au PSG, c'est Mbappé, en fait, en règle générale, il arrive à faire gagner les matchs. Donc il n'est pas différent des autres entraîneurs qui le mettent dans les meilleures conditions.
Ça, c'est mon opinion. Ce que vous entendez, non, c'était pas pour vous, Kylian. C'était plutôt un message pour Luis Enrique.
C'est le pilote.
Ah ouais, mais en finale, on redoutait l'enfer pour l'OM face à l'Atalanta Bergame en demi-finale donc de Coupe d'Europe. Allez, l'OM a fait mieux que résister, aurait pu l'emporter. C'était hier donc au Vélodrome en se procurant les meilleures occasions. Le mot de Jean-Louis Gasset donc en conférence de presse qui sort même avec ce match avec un petit goût amer. Le coach a parlé de la suite. La suite, c'est quoi? C'est jeudi, match retour, demi-finale. Retour à Bergame. Écoutez Jean-Louis Gasset.
On est à la mi-temps d'un match. On est un partout. On a eu des occasions. On a eu une barre. On a eu un but refusé. Donc ça laisse quand même beaucoup d'espoir. On sait qu'il nous faudra aller faire un grand match sur un terrain difficile et contre une très bonne équipe. On l'a vu ce soir. Il faudra faire le match parfait là-bas pour se qualifier, mais ça vaut le coup.
Ce 1 partout laisse beaucoup d'espoir. Question, l'OM a-t-il pris l'ascendant sur l'Atalanta Bergame? Attention, dans le Vipeuple, tout le monde s'est ligué en disant non, il n'y a pas d'ascendant. Grégory Schneider, la question est inepte là. Je vois votre tête là, j'ai pourtant fait une école de questions, mais là vous me dites non. Non, elle est inepte la question.
Non, c'est quand même un grand mot. Et en fait, il je trouve qu'il bénéficie du fait que comme les autres avaient gagné la Liverpool, tous on les voyait passer à la moulinette. Mais ça, c'est pas la réalité. Le foot, c'est pas ça. Le foot, c'est un rapport de force d'un soir. Ouais, bon, enfin, ils ont quand même pas une équipe de pimpins. Ils ont quand même des joueurs qui sont tous internationaux ou presque. Enfin, ils se sont pas. Et peut-être, alors ça, c'est tout personnel, mais j'ai l'impression que l'Atalanta a été un petit peu surpris de ce qu'ils ont trouvé en face.
Gasperini a dit le contraire en conférence de presse en disant j'avais bien étudié.
J'ai trouvé qu'ils mettaient pas, quand ils ont monté le curseur en deuxième mi-temps, les Italiens, ça m'a semblé un peu plus solide, mais sur le coup j'ai trouvé qu'ils prenaient les premières demi-heures, ils prennent un peu bien la marée.
Donc il y a eu un ascendant physique, mais pas d'ascendant pour
non,
la suite.
Non, parce que maintenant ils savent, ils se connaissent, il se faut quand même aller là-bas. Non, mais mais on me dirait t'as pris l'ascendant, tu gagnes 2-0.
Un partout.
C'est une option là.
Non, mais,
là
parce que ça alors là, on se retrouve dans le cas inverse du Paris Saint-Germain. Alors Paris Saint-Germain, Dortmund, ça n'existe pas. Et puis là, ça veut dire qu'en gros, Marseille n'existait pas face à l'Atalanta.
Ouais, non,
mais Marseille, c'est quand même une équipe de haut niveau. Il y a des joueurs qui ont quand même joué des compétitions de haut niveau.
C'est 9 défaites en 31 matchs de championnat.
Mais oui, mais
voilà. C'est une équipe moyenne.
Rappelons-nous que l'équipe de 2004, qui va en finale, elle était combien en championnat? Elle était désastreuse en championnat. Simplement, à un moment, ils s'étaient concentrés sur l'épreuve qui était la Coupe d'Europe. La dernière finale qu'ils font en Coupe d'Europe, c'est vrai que là, ils étaient assez bons en championnat. Parce que là, ils jouaient aussi une place en Ligue des Champions. En 2018. Mais il n'empêche que c'est logique qu'à un moment, vous laissez un peu de jus. Et puis attendez, entre les joueurs blessés et l'autre qui doit prendre 3 piqûres dans l'épaule parce qu'elle est à moitié démise.
Gigot,
Mbemba qui a un os qui se bouscule, qui se balade, on sait jamais s'il va avoir une jambe droite. Enfin, à un moment, c'est une équipe faite de briques et de brocs. Donc ils sont déjà obligés de soigner tous les joueurs pour arriver à ça. Mais c'est des bons joueurs, vous avez quand même une bonne équipe, faut arrêter. Donc ce qu'ils font, un match nul, c'est mieux peut-être que certains pourraient espérer. Mais vous êtes au Vélodrome dans une ambiance de fou. D'ailleurs, j'ai vu les journaux italiens, ils étaient complètement subjugués par ce qu'ils ont pu entendre. Donc aujourd'hui, ils ne sont quand même pas favoris pour le retour.
Qu'est-ce qui porte l'OM? Qu'est-ce qui fait que l'OM, c'est moyen en championnat et que c'est en demi-finale et c'est toujours en situation de se qualifier pour la finale? Qu'est-ce qui porte? Alors, on parle.
Il y a du. L'ambiance.
C'est l'ambiance. C'est l'ambiance. Attendez, vous avez joué à l'OM. Oui, expliquez-le, prenez par la main, parce que moi, pour moi, une équipe moyenne, c'est une équipe moyenne. Et là, ils sont.
Non, mais là, c'est une autre compétition. En championnat, ils savent que ça va être très, très dur de se rapprocher des trois premières places. Donc, ils ont pas lâché. Mais je trouve qu'il y a un autre état d'esprit en Coupe d'Europe. Et comme on l'a dit, le public, c'était incroyable, je dis quoi. Donc, non, ils peuvent y croire. Et puis c'est Jean-Louis Gasset, j'ai l'impression qu'il leur amène une âme comme ça. Il les fait croire, il les persuade de la réussite. Et oui, ils sont capables d'aller faire un gros coup à l'Atalanta. Oui. Et c'est bien de ne pas être favori.
Un entraîneur doit faire croire, alors.
Ah, bien sûr, c'est notre rôle.
Ouais, c'est persuader ou faire croire? Parce que dans faire croire, il y a une sorte un peu de... Ben déjà, de manipulation,
faut soit être persuadé, c'est déjà important. Ouais. Et puis après, oui, c'est il y a un petit côté de manipulation, tu vois. C'est
il est arrivé, on sent qu'il a donné quelque chose à l'équipe. Bon, les joueurs en parlaient. Aubameyang, l'interview d'Aubameyang était intéressante. Il a dit, Jean-Louis nous a donné quelque chose. On sent qu'il a apporté à cette équipe.
Donc on sent qu'il met tout dans la Coupe d'Europe aujourd'hui, sur les discours qu'on entend, sur les matchs qu'on voit, et vraiment grosse importance.
En résumé, c'est pas de fond de jeu, mais à fond.
Non, je trouve. Greg, vous n'avez pas envie de laisser parler votre voisine, qui est patiente?
Non, mais juste, c'est comme une équipe où il y a des joueurs expérimentés. Il y a quand même des joueurs qui connaissent la musique. Vous prenez Kondogbia, vous prenez Chancel Bemba, qui a comme joueur des champions avec Porto. Vous prenez Aubameyang. C'est quand même pas.
Mais c'est les mêmes gars qui veulent être sur le podium.
Vertu, Klose. Il y a quand même des mecs qui connaissent un peu la chanson.
Attention, Tanguy, l'OM. Ce ne serait pas l'OM parce que ça bouge en coulisses.
Ah non, c'est pas vrai.
Et c'est directeur général Stéphane Tessier. Et sur le départ, c'est une information de nos confrères de la Provence. Il devrait quitter le club à l'issue de cette saison et laisser le champ libre à Pablo Longoria.
Oui, parce qu'encore, il y avait une guerre entre Don Pablo, le président, et Stéphane Tessier. Non, je suis obligé de lancer la pub, sinon je me fais taper sur les doigts. Dans quelques minutes, Benoît Pedretti sera sur le grill de l'équipe du soir.
Ça fait très mal. À tout de suite.
Regardez l'équipe du soir, vous avez bien raison. Petit tour de plateau. Avec dans le Vipop, c'est du classique. Des visages connus. Hervé Penaud, Nabil Djellit, Pia Clément, ou encore Grégory Schneider, l'ami du vendredi. Mais le président qui est à côté de moi, c'est un président coach, c'est Benoît Pedretti. Bonsoir et rebonsoir, mon cher Benoît. Vous avez fait une première heure magnifique, mais vous allez être brillant ici dans cette deuxième heure. Attention, chers téléspectateurs, je vous l'indique, si vous avez des questions à poser à Benoît Pedretti, vous allez sur le site L'Équipe. Vos questions sont prises en compte et vont être drivées par Tanguy Le Sévillier. Oui, il y a un QR code également. Comme je suis un peu naufragé du numérique, je pense que vous avez compris l'utilisation du QR code. Il semblerait qu'avec vos smartphones, vous le scannez, et puis vous arrivez directement sur la page. J'ai été clair, j'ai été concis, j'ai été technique. Me voilà vendeur chez Darty ou Boulanger. Et donc, faut avoir un autre magasin parce que j'ai fait de la pub.
Jiffy,
des idées aussi de génie. Tanguy Le Sévillier est dans la place.
Oui, avec le match du soir, Lens-Lorient et cette victoire des Lensois au stade Félix Bollaert en ouverture de la 32e journée de Ligue 1 ce vendredi. Le bon pressing de Nampalis Mendy, ça profite à Eli Wahi qui peut célébrer, ça lui fait du bien ce but au jeune Lensois. qui lance son équipe parfaitement vers la victoire. Les Lorientais vont quand même avoir une balle d'égalisation grâce à Mohamed Bamba, bien stoppé par Brice Samba. Et quelques instants plus tard, eh bien, les Lensois vont faire le break grâce à ce joli 1-2 entre Adrien Thomasson et David Pereira da Costa. Lens creuse l'écart sur Marseille, 5 points d'avance. On va écouter Régis Lebris, il répond à la question, est-ce qu'il est en colère contre l'arbitrage? On l'écoute.
Alors la colère sur les fautes d'arbitrage, c'est pas celle-là qui m'habite. Ce qui m'habite, moi, c'est la qualité de notre jeu, c'est ce qu'on construit et ce qu'on et la réalité qui est la nôtre aujourd'hui, c'est d'être au moment où on est en train de se parler relégué en Ligue 2. Il reste 2 matchs. C'est ça qui me rend en colère.
Kevin Danso, adducteur qui siffle, sorti à la pause, fin de saison, propos de Francaise. Ce soir en conférence de presse, écoutez Francaise, la saison de Danso est terminée.
Il s'est tiré l'adducteur. Donc étirer l'adducteur quand il reste 2 semaines. Voilà, moins que ça soit vraiment faible, vu qu'il a senti et qu'il a vite demandé à sortir, on verra l'examen dans. Les échos sont toujours à 48-72 heures, mais surtout qu'on rejoue dimanche dans 10 jours, 8 jours. Mais je pense qu'il y a de fortes probabilités que ça soit la fin de sa saison.
Deux derniers matchs de Lens. Rennes, déplacement donc au Roazhon Park pour Lens. Et Lens accueillera Montpellier. On trouvera peut-être ou pas Kevin Danso avec l'Autriche à l'Euro, puisque l'Autriche est l'un des adversaires des Bleus Didier Deschamps. Montpellier, on en parle. 32e journée lancée ce soir à 19h. Toulouse-Montpellier. Montpellier s'est imposé à Toulouse. Valide son maintien avec, je vous le disais, un but extraordinaire de TJ Savagnier.
On en a l'habitude en Ligue 1 des jolis buts de TJ Savagnier. Eh bien, ce soir, il a récidivé avec un superbe centre d'Issia Gassila. Et puis là, la reprise de volée, le chef-d'œuvre de TJ Savagnier. Qui permet à Montpellier de mener 1-0 sur cette reprise de volée qui termine dans la cage du portier toulousain. Égalisation de Thijs Dalinga sur ce centre de Caceres. 13e but de la saison pour le Toulousain. Ça ne va pas suffire. 81e minute de jeu. Le but du maintien pour Montpellier avec ce rush de Jordan Ferry. Ça profite à Khalil Fayad. À l'épuisette qui marque. Montpellier 10e avec 11 points d'avance sur Metz. Barragiste, idem pour Toulouse.
Le geste du footballeur, la reprise de TJ Savagnier, c'est quoi le secret? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un équilibre magnifique, quelque chose qui est là. Mais prenez-moi par la main, là encore, faites-moi travailler mes reprises de volée.
Il y a du boulot, attention.
Pardon, vous l'aviez vu sur Internet. Les conseils, enfin voilà. Non, ce geste-là réussi, qu'est-ce que vous notez? Pourquoi il le réussit si bien?
L'équilibre, déjà. Comme vous l'avez dit, il est juste parfait, il a le corps comme il faut et surtout il a l'audace de le tenter. Là, sur tous les jours de championnat, il y en a une dizaine qui l'attendent la reprise. Les autres, ils font un contrôle et ils la mettent pas au fond. Donc déjà, il a confiance en lui, confiance en sa technique. Puis après, voilà, c'est un joueur pied droit, pied gauche, il est capable de faire ce qu'il veut.
C'est son ancrage aussi au sol. Il est solide, il est là, ça part, c'est extraordinaire. Non,
il a un équilibre pied droit, pied gauche, centre de gravité un peu bas, il a des appuis assez costauds. Donc, non, c'est un but vraiment magnifique.
Et l'armée est court, j'aime bien dire ça, ça fait technique.
Il est plutôt long, l'armée, en plus.
Non, il a un armée très court. On passe à la Ligue 2 à présent, avec Angers qui reprend provisoirement la 2e place, c'est bien ça?
Ah oui, avec un très joli but aussi d'Imad Abdelli, suivi par l'OGC Nice d'ailleurs. Ouais. On va le voir, Abdelli, là, il récupère le ballon, personne ne l'attaque, hop là, c'est enveloppé. Dans le but de Bingourou Camara, Florent Hanin va également inscrire un 2e but pour les Angevins dans cette partie à l'affût dans la surface de réparation et c'est finalement Jean Ruiz pour Pau qui va réduire l'écart, ça ne suffit pas. Angers s'impose 2-1, reprend un point d'avance sur Saint-Etienne qui joue demain à Guingamp.
Ouais, sur le 2e but il y avait une main d'un Palois, mais on dérange. Angers, on dérange. La Ligue 2. Côté relégation, donc QRM, Concarneau descend en National. Ça, c'est acté. 3 est au bord du précipice ou c'est fait? Parce que là, il y a une fin de match qui était terrible.
On va d'abord commencer par les équipes qui sont d'ores et déjà bien reléguées en National. Avec cette équipe de Dunkerque qui s'impose face à Quevilly-Rouen Métropole. Le coup franc de Benjaloud Youssouf et Jean-Philippe Gébamin qui offre le maintien à Dunkerque sur but de Renard. Du côté de Concarneau, défaite également à Grenoble 2-1. C'est Jesse Benet sur ce doublé qui enterre les espoirs de Concarneau en Ligue 2. Et puis 3, hein, vous l'avez dit, Mémé est en grand danger. Le match a été arrêté un but partout. Il a été arrêté deux fois dans cette partie. Certains joueurs de 3 ont même renvoyé des fumigènes dans le COP des supporters troyens. Fin de match très très tendu. La rencontre a été stoppée, arrêtée. On ne connaît pas évidemment encore l'issue de cette partie.
Bon, simplement, ça va passer à la commission de discipline. Vraisemblablement, 3 aura un match perdu. Là, ils étaient un partout, un point. Ce point-là est important puisqu'il y avait 6 points de retard sur l'adversaire qui était juste
Dunkerque,
devant Dunkerque. Et Dunkerque. Donc là, il semblerait quand même que 3 puisse se faire relaguer sur tapis vert par la commission de discipline. Mais c'est une lecture. Alors, ces images-là, là, les supporters qui canardent avec des fumigènes, il y a des choses comme ça qui s'étaient passées du côté de Nancy, non hein, ouais. C'est bien ça, hein, c'est ça. Hein, hein. Comment on le vit, ça, comme ça, là, des relégations, des situations de crise avec les supporters en tant qu'entraîneur?
Ouais, c'est hyper compliqué à gérer. Hein. Ce qu'on demande aux supporters, c'est d'être derrière les joueurs. Et encore là, on le voit, 3 n'était pas mathématiquement relégué. Donc on ne sait jamais ce qui peut arriver. À la dernière minute, ils marquent un but, ils reviennent à 3 points, il reste 2 journées à jouer. Donc non, c'est terriblement frustrant pour nous parce qu'on n'a pas d'impact sur les supporters à ce moment-là. Voilà. Et maintenant, c'est entre les mains de la commission de discipline et ils auront vraisemblablement un match perdu et plus d'autres sanctions sûrement derrière.
Probablement, hein, ce n'est pas encore officiel. Mais prenons quelques précautions.
Il y a un an. Hein.
Bel investissement. Un petit mot sur Auxerre aussi. Auxerre qui est candidat à la montée, qui est leader, là, voilà, qui a, on va dire, quelques points d'avance et donc un joker. Il reste 3 matchs pour eux.
Ce soir, ils ont fait un super match à Dunkerque. Ils ont réussi à gagner lundi. Et puis là, demain, ils n'ont plus qu'à enchaîner. Mais oui, ils sont pas très loin du bonheur, on va dire. Ils ont fait une grosse saison. Et c'est avec la qualité de jeu, avec des buts vraiment très agréables à regarder. Et une super ambiance à la Baie des Champs.
Et juste rappeler quand même que Manchester City a investi en 3, il ne faut pas l'oublier. Ouais. C'est quand même un désastre absolu. Ils ont fait absolument n'importe quoi depuis qu'ils ont mis un peu de billes là-dedans.
Ouais, quand ils étaient en Ligue 1, ils ne voulaient pas qu'ils soient en Ligue 1.
Ouais, c'est ça. Visiblement, en Ligue 2, ils ne veulent pas qu'ils soient en Ligue 2. Ils seront en National, peut-être ils seront en National 2 dans 2 ans.
Donc QRM, Concarneau, donc descendre en National, c'est réglé. 3 au bord du précipice. Et VA était relégué depuis déjà quelques journées, ça s'était acté. En National, c'est le pénalty tour, hein, puisque Nancy peut encore rêver éventuellement de la montée avec vous. En image, mon cher Tanguy.
La SNL est quatrième à 6 points de Marty qui s'est imposé ce soir. Victoire 3-0 des Nancéens sur la pelouse d'Avranches. On va voir le premier but de la partie signé Jonathan Rivas sur cette frappe de loin avec rebond. Et puis le deuxième derrière de Louis Carnot, bien servi dans la surface de réparation. On va le voir. On se retourne, la passe en pivot. Et c'est facile pour Louis Carnot. Ouais. Le dernier but, c'est un CSC. Nancy se replace pour la montée en attendant le Rouen-Niort de ce samedi.
Vous êtes encore lié avec les joueurs? Vous avez des contacts ou pas du tout? Vous avez coupé le cordon?
Non, j'ai encore pas mal d'infos.
Ouais. Et
pas mal de joueurs encore.
Ouais. Et les infos que vous connaissez, que vous pouvez dire? Il y a quoi? Mais vous me dites, j'ai encore pas mal d'infos. Vous avez des contacts, des petites choses. Comment ça se passe, quoi, avec Pablo? Comment ça se passe dans le club?
Ça se passe bien. Ils ont bien remonté. Maintenant, comme d'habitude, il y aura ce passage vers la DNCG très bientôt. Et là, ça peut être un peu plus compliqué.
Mmh. OK. On passe à Sochaux, un ancien club. C'est la maison qui a formé notre phénomène.
Oui, on fait un petit peu honneur à notre président ce soir. Alors, il y a eu 0-0 face à Dijon ce soir, mais une image qu'on voulait vous montrer, ça s'est passé dans les tribunes. Un projecteur qui a pris feu tout simplement dans la tribune. Alors forcément, on voit pas très bien, il y a un petit peu de fumée sur ces images.
Le match a été arrêté ?
Le match a été interrompu, mais a pu reprendre 0-0 entre Sochaliens et Dijonais ce soir.
Mmh. Autre match nous raconter ou pas du tout ?
Si, deux petits bonbons à vous montrer. Deux jolis buts en National ce soir. Lors du match fou entre Le Mans et Cholet, 3 buts partout. Le premier joli but de la soirée, signé Babou Sey, son premier de la saison. Il a bien fait d'attendre, puisqu'il est magnifique. Ça se termine dans la lucarne. But pour Cholet, d'ores et déjà relégué.
Oh oui.
Autre petite merveille, celle de Nîmes qui offre la victoire sur la pelouse de Gaulle FC. Les Crocos s'imposent de 1 grâce à cette lourde frappe de Marouane Khalid.
Il est beau le but. C'est l'air de beau but, en fait, du soir, c'est ça?
Bien sûr, c'était tout à fait ça.
Ça coche. Voilà, oui, Tanguy, à chaque fois, c'est l'air de beau but. Voilà, il fait le journal pour nous passer les beaux buts. Rudy Garcia, dans la shortlist pour coacher le Bayern. Quelques détails avec vous, Tanguy.
Oui, c'est une information signée Alexis Menuge et Loïc Tanzi du journal L'Équipe, bien évidemment. Ralf Rangnick a dit non et préfère rester à la tête de l'Autriche. Et dans la shortlist des dirigeants bavarois, Rudi Garcia, eh bien là, on le rappelle, il est libre depuis son licenciement de Naples. C'était en novembre dernier. Alexis Menuge m'a contacté il y a quelques instants. Roberto De Zerbi vient à son tour de refuser le Bayern. Il reste quelques candidats. Antonio Conte, Roger Schmidt, Eric Ten Hag, Lucien Favre et José Mourinho.
Alors, c'est un poste un peu étrange parce que le mec sait qu'il prendra un coup de chausson dans un an si Xabi Alonso daigne prendre le. Je trouve ça invraisemblable qu'un club de la dimension du Bayern présente un poste par intérim en fait. Mmh. C'est-à-dire que tu te projettes, après il arrive ce qu'il arrive, mais tu peux pas. Là, le type, il sait qu'il est condamné, il sait que.
Ah, c'est pour ça que pour lui, ça pourrait être top, hein, pour Rudi Garcia. Si lui, tu peux récupérer le. Il avait failli. Il était dans la shortlist aussi de Manchester United, deux ans. Donc
ça veut dire quoi,
il avait discuté. Non, mais ça veut dire oui, mais les moments où tu interviews des candidats, et oui. Ils ont une possibilité de prendre le poste. Bah,
c'est quand même sa dernière expérience à Rudi Garcia de coach. Naples. C'est 16 matchs avec le Napoli. Et là, qu'il soit finalement, qu'il soit proche, enfin proche, en tout cas passer l'audition avec le Bayern, c'est plutôt surprenant. Ouais,
il était quatrième avec Naples. Ouais, quand il prend le coup de chausson, il est quatrième avec Naples. Aujourd'hui, ils sont dixième.
Et quasiment qualifié. Ouais,
moi, je trouve ça un peu étonnant, pour être honnête avec vous. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Hein. Mais on passe là, il y a deux semaines, je fais des débats, Zidane au Bayern, et voilà, on passe à Rudi Garcia. Pour moi, le Bayern, c'est soit des entraîneurs jeunes à fort potentiel, style Nagelsmann, Tuchel, soit des grands noms, soit des anciens de la maison. Là, pour moi, Rudi Garcia, c'est pas calibré Bayern, même s'il a une belle carrière. Pour moi, c'est club intermédiaire plus en Espagne ou en Italie. Voilà. Là, c'est comme ça que je le lis.
Non, mais
maintenant,
là,
s'il peut gagner au loto et prendre le Bayern, là, franchement, qu'il y aille et respect.
Non, mais visiblement, je le dis comme je le pense.
Il fait fausse route, Nabilou.
Non, il fait un peu fausse route. Un petit peu fausse route. Déjà, visiblement, les premiers choix, ils n'ont pas accepté de signer. Bon, déjà, vous avez donc entre guillemets, deuxième choix. Et lui, je ne vois pas pourquoi il ne ferait pas partie de cette liste-là. Partout où il est allé, il a eu des résultats.
Il sort la Juventus en Ligue des Champions.
Et Manchester City, avec l'OM, on parlait de l'OM, il les envoie en finale de Ligue Europa. Naples, ils prennent Naples à une période très compliquée. Parce que
champion de France avec Lyon.
S'ils sont fans des blocs bas de Ligue 1, on prend.
Après, non, mais tu prends l'image de Naples.
C'est qu'après, on parle du Bayern de Munich. Hein.
Ouais.
Moi, honnêtement, je veux bien faire le débat. Il n'y a pas de souci, mais je suis étonné quand même. Et je ne dis pas que c'est un mauvais entraîneur. Mais il sort d'une. Il s'est fait virer à Naples. Il était en Arabie Saoudite, c'était mitigé.
Tu vas pas le juger sur l'Arabie Saoudite. Ils sont combien Naples aujourd'hui? En plus, t'es quatrième avec un Osimhen en difficulté en début de saison.
T'es sérieux là, Hervé? Tu crois qu'ils vont prendre un gars parce qu'il a été quatrième avec Naples, le Bayern?
Mais on te demande. Prendre ce Naples-là, alors qu'il était champion, c'est un désastre assuré. Être quatrième,
écoute. Honnêtement, je lui souhaite. Honnêtement.
Non, mais c'est une surprise. Évidemment, on te dit pas qu'on n'est pas un peu surpris.
Vas-y, rétro-pédale, tiens, tu veux les rames?
Non, je vais. Je dis que ça peut être un très bon choix pour lui.
Okay. Rudi Garcia, parlant de Benoît Pedretti, puisqu'il vous a coaché lors de vos années lilloises entre 2011 et 2013. Les retrouvailles, c'était lorsque Garcia était entraîneur de l'OM. C'était un OM Nancy. On est le 2 décembre 2016. Et Rudi parle de vous. Écoutez.
Il y en a un que je connais bien, qui est Benoît Pedretti, et que je reverrai avec plaisir en dehors du terrain. C'est un formidable joueur de ballon. Et puis comme il voit tout avant tout le monde, il n'y a pas besoin de beaucoup se déplacer. Parce que là, je commence à peser un peu sur ses épaules. Mais comme c'est un grand technicien, ça reste un grand joueur. Chacun a son histoire. Moi, je suis content d'avoir croisé celle de Benoît. Ouais.
Rudi Garcia est un coach avec une communication très habile, très très fine. Vous, votre Rudi Garcia, c'est quoi? Est-ce que c'est un entraîneur qui vous a marqué, pas? Ou allons-y.
Non, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer dans cette équipe de Lille. C'est un entraîneur qui demande beaucoup de jouer, du mouvement, d'avoir le ballon. Franchement, je me suis régalé avec lui.
Alors, quand Nabil dit bloc bas, c'est un peu dur.
Ça a été dur parce qu'à Lille, on peut pas dire qu'à l'époque, l'année où ils sont champions, ils produisaient énormément de jeux. Et après, pareil. Et quand on parle de Rudi Garcia, on parle de son staff aussi à l'époque. Hein. Il y avait Claude Fichot, il y avait Fred Bompard aussi qui formait un super trio. Franchement, j'ai pris énormément de plaisir à jouer. Après, oui, en termes de communication,
Il y a quoi?
Ouais.
Non, non, mais je silence, ça, non, c'est intéressant parce que.
Non, la, souvent, la gestion du groupe.
Non, voilà. Mais souvent, sur la communication, on dit que c'est un coach sur la longueur. Finalement, il perd ses joueurs.
Il restera qu'un
joueur. Enfin, les joueurs perçoivent les trucs de communication. J'ai regardé vos deux saisons avec Rudy Garcia. Première saison, je pense que c'est bien passé parce que vous étiez titulaire. La deuxième saison, plutôt vers la fin, vous étiez un petit peu moins utilisé, c'est bien ça. Comment il s'est comporté, Rudy, avec vous et tout ça en temps de jour? Et est-ce que ça peut être intéressant parce que vous êtes maintenant de l'autre côté? Là, vous êtes coach.
Oui, un peu, bien sûr, différemment. Même si on te fait penser que tu es important, que tu fais partie du conseil des sages, comme il aimait le faire. les petites attentions, ils vont souvent plus vers les titulaires que vers les joueurs qui jouent moins. D'accord. Et ça, faut être... Quand t'es entraîneur, faut être vigilant. Mmh. Parce que finalement, les joueurs les plus importants, c'est presque les joueurs qui jouent moins. Mmh. Parce que c'est eux qui peuvent finir avec la zizanie. Mmh. Ceux qui jouent sont contents. Hein. Tu les fais jouer et t'as presque pas besoin d'aller les voir.
Mmh. Regardez le sourire malicieux de Grégory Schneider.
Ouais, il avait un truc à Marseille, en fait. C'est parce qu'il annonçait pas son équipe et il allait voir les remplaçants dans l'hôtel. Ouais. Il allait voir ceux qui faisaient jouer remplaçants. Et en fait, il ouvrait. Donc le mec savait qu'il était condamné et lui faisait aller prêt à rentrer.
Moi, je l'ai
donc
connu,
les mecs, ça les rendait fous. Ils avaient envie de lui retourner une parce qu'ils étaient quand même mis sur le banc.
C'était après la collation. T'avais le.
Voilà.
Comme ça, truc, et ouais. Ça, c'était pas bon signe.
Non, quand t'as 4 à chance, c'est pas bon signe.
Benoît, mais est-ce qu'il y a une bonne nouvelle? Enfin, est-ce qu'il y a une bonne manière plutôt d'annoncer qu'un joueur va pas jouer, va être remplaçant? Est-ce que voilà, ouais.
Tu peux être sobre.
Ouais. Non, mais comment tu fais?
Non, il y a pas de bonne nouvelle.
C'est une mauvaise nouvelle pour le joueur. Le joueur va vous faire la gueule.
Ouais, il va vous pas.
Par exemple, dis-moi que je vais pas jouer.
Comment?
Dis-moi, je vais pas jouer.
Tu vas pas jouer. Mais on compte sur toi. Hein. Lâche pas, on compte sur toi.
Bon, conseil des
les 20 dernières minutes, c'est les plus importantes, donc prépare-toi bien.
Fabien Galthié parle pas de remplaçant là. Vous savez,
finisseur. Alors, c'est devenu
vous êtes finisseur.
Voilà. Comment on dit. Non mais à 5 avec 5 remplaçants, ça change quand même. Ouais. Là tu
ouais, sauf pour Guardiola qui change pas.
Et ça change même Luis Enrique, ça change, mais mine de rien pour le joueur, aujourd'hui, il a pas intégré ça. Je dis pas que dans les années futures, peut-être, avec les jeunes qui ont 12, 13, 14, 15 ans, dans 10 ans, qui ont connu que ça, une sorte de joueur. Et puis, il y a peut-être des changements à 45e. Hein. Il y aura peut-être bientôt des changements à 45e.
Il y en a, 90e.
Peut-être que ça va évoluer. Mais même un finisseur, vous lui dites, t'es finisseur, alors qu'en rugby, ils l'ont complètement intégré. Hein. Mm. Il y a des joueurs qui savent qu'ils vont rentrer 60e, vous allez remplacer des piliers 45e, etc., etc. Ça, on le sait. Mais pas en foot encore, et c'est difficile de le faire accepter à un joueur.
Ouais. On continue cet excellent journal. Tanguy, Euro 2024, adieu la liste des 23, bonjour la liste des 26.
Étienne Moati nous avait déjà révélé cette information en fin de journée. Les sélectionneurs pourront effectivement emmener 26 joueurs et non 23 pour le prochain Euro. Les Français, Didier Deschamps en tête, auraient préféré rester à 23. Mais la petite satisfaction du sélectionneur, c'est qu'il pourra installer sur le banc la totalité des non-titulaires. Capital. Personne n'aura à aller en tribune.
Ok, en Monaco. Capital,
tu peux en emmener 23. Ah, ça, c'est capital. Mmh. Parce que la dernière fois, ce n'était pas le cas. Ça veut dire que chaque fois, c'est un peu le bon taux. Mmh. Vous dites, on va mettre qui en tribune? Vous ne pouvez pas mettre toujours les mêmes. Parce que les mecs vous disent, je suis venu pour quoi? Je suis venu pour regarder les mecs s'entraîner. Ou faire... Mais mettons le chiffre 26, ce n'est pas terrible quand vous faites des entraînements, même des entraînements avec opposition. Hein, parce que 26, ça en fait un peu trop.
Mmh. OK. Monaco, géré, hein. Monaco, toujours en vie en Euroleague. Ce succès ce soir à Istanbul contre Fenerbahçe. Il y aura donc un match 5 pour rallier le Final Four.
Victoire homérique de l'AS Monaco en Euroleague. Succès 65-62 qui s'est dessiné dans les derniers instants de la partie grâce à ce panier compliqué de Dom Taol. Vous voyez le gros pressing de la part des joueurs turcs. Finalement, ça s'ouvre pour Dom Taol qui a fini au dunk. Pour le Fener, Scotty Wilbekin à la balle de match. Sur cette percée, il va rater le shoot de la gagne à 7 secondes de la fin. Derrière, Monaco s'en sort et conclut une nouvelle fois. Wow. Rendez-vous mercredi à Gaston Médecin pour le match 5. Et il y a eu des altercations sur le parquet à la fin du match. Les supporters turcs ont un petit peu chahuté les joueurs de Monaco. Rendez-vous mercredi à Gaston Médecin pour une place pour le Final Four de l'Euroleague.
Ils sont sortis vivants du bain. C'est grave. On leur souhaite bon courage. Madrid, la finale opposera Ogiel Yassim à Rublev.
Oui, puisque Rublev s'est imposé aujourd'hui face à Taylor Fritz en demi-finale. Succès 6-4, 6-3 pour le Russe en haut de l'écran. Il retrouvera, vous l'avez dit, Ogé Aliassim, qui pour la deuxième fois de suite a bénéficié de l'abandon de son adversaire, en l'occurrence Jiří Lehečka, le tombeur de Rafael Nadal. Ça se passe bien pour Rublev, vous le voyez en haut de l'écran, le smash. C'est sur la ligne, on va le voir au ralenti, ça nettoie complètement la ligne de fond de court. Victoire, on l'a dit, 6-4, 6-3.
Et Ogé Aliassim, le Canadien, déjà, qui avait passé le tour précédent avec Sinner qui avait déclaré forfait.
Ouais, tout à fait.
Gagnant du loto. Tennis Biz, Carlos Alcaraz est forfait à Rome.
Oui, c'est son avant-bras qui le fait souffrir en ce moment. Il a expliqué avoir ressenti des douleurs après le tournoi de Madrid. Les examens effectués ont mis à jour un œdème musculaire dans l'avant-bras. Il va donc se reposer. Idem pour le Français Lucas Van Hachel, qui ne sera donc pas là à Rome. Il a dû déclarer pour le tournoi italien. Il n'a pas révélé la nature de sa blessure, l'autre Français.
Du tennis toujours, l'Open Deck, c'est chez nous, c'est sur le groupe L'Équipe. Alors double ration aujourd'hui pour Richard Gasquet, mais l'intéressé a fini par une indigestion.
Allez, deux matchs dans la même journée pour le Biterrois, une défaite cet après-midi contre Valentin Vachereau, 131e mondial. Une défaite 6-4, 6-3. Richard Gasquet nous a quand même gratifié de ce joli point. Valentin Vachereau, on va le voir, n'est pas en reste avec une accélération au coup droit qui va faire mal. Au Français, le Monégasque Vachereau, cousin d'Arthur Rinderknecht, affrontera Alejandro Tabilo, le Chilien, tête de série numéro 3 sur ce tournoi.
Oui, comme son nom ne l'indique pas, mon cher Hervé Penaud.
Je suis étonné.
Vous n'êtes pas de la famille de Damien de Penaud, vous, le rugbyman?
Absolument pas.
D'accord,
absolument
voilà.
Même carrure, mais pas même famille.
Pas tout à fait. Ça, basket 3-3 à présent, l'équipe de France toujours en lice pour disputer les JO de Paris.
Oui, les Bleus démarrent par une victoire 21-8 contre l'Égypte, c'était ce vendredi. Il faudra défier la Mongolie et le Japon ce samedi à partir de 12h15. Les plus beaux points de cette victoire contre l'Égypte, eh bien, ouais. C'est avec Benoît Cosset et Chloé Vestelin qu'au commentaire.
Via l'arrêt, le rebond, deuxième chance cette fois, la tire Konaté, justement, voilà !
Allez, il va falloir trouver cette adresse à deux points.
Allez, encore Konaté, justement, encore Konaté ! Oh là là, 12-4, on peut aller en 21. Konaté, la belle passe pour Rambo, l'interception, il a récupéré le ballon. Mais oui, il est accordé celui-là. Voilà le panier de la gagne, Hugo Suard, c'est réglé à 1-25 de la fin avec une réussite à deux points, une adresse insolente. L'équipe de France entame sa qualification olympique de la meilleure des manières.
Et allez les Bleus, et ça sera demain sur la chaîne L'Équipe, merci Tanguy. On va tout de suite mettre notre président sur le grill. Interview qui nous raconte ses plus beaux souvenirs. Stéphane Grappelli joue sa jolie musique. Remerciement au passage à Pierre-Étienne Milanzio qui vous avait opéré du côté de L'Équipe. Alors quel est le joueur le plus fort avec lequel vous avez joué? J'ai deux choix, Hazard ou Benzema, et pourquoi?
Eden Hazard.
Pourquoi?
Eden Hazard parce qu'il était, il avait déjà plus de matchs de Ligue 1 derrière lui et qu'il était prêt. Ouais, il avait tout, cette capacité à dribbler, à marquer, à faire la passe juste au bon moment. Et il était inarrêtable. Quand il voulait, il était inarrêtable.
Le joueur le plus sûr de lui, c'est Eladji Diouf. Il avait quelque chose, une anecdote à nous raconter. On vous écoute.
Ouais, quel âge, il y en a beaucoup. Hein. Non, la première, c'était en moins de 17 ans. On jouait Sochaux-Auxerre et il était suspendu au match aller. Et puis il va voir le banc de touche et il va voir l'entraîneur. Il fait: toi, regarde-moi, je vais mettre 3 buts au retour. Et à Auxerre, il a mis 3 buts. À 16 ans, il avait déjà cette confiance en lui.
Le joueur le plus fort que vous avez affronté, c'est Marco Verratti, Pia.
Oh,
pourquoi?
Parce qu'il est, imprévisible, capable de faire des passes incroyables, capable d'éliminer, d'accélérer. Il presse, il te tacle, il parle. Il a un talent incroyable, incroyable.
Et maintenant que vous êtes coach, gérer un joueur comme Verratti, on va dire qu'il a une vie nocturne, on va dire assez dense, qui fait pas, comme disaient les anciens, le métier. Comment ça gère un joueur comme ça là?
Tant qu'il fait le travail sur le terrain, il faut le gérer. Mais après, toi, il y a des joueurs, il y a Soulé, Diawara, qu'on parlait souvent.
Ah bon, il sortait, lui?
Le plus gros conseil qu'on lui a donné à Bordeaux, c'est de ressortir. Parce qu'il a arrêté de sortir, il était moins bon. Donc il y a des joueurs qu'on en a besoin. Oui, et s'ils en ont besoin, tant qu'ils sont irréprochables après sur le terrain, maintenant, il y a une carrière à gérer. Ça, c'est leur problème.
Tiens, la consigne de coach, quand vous étiez joueur, vous n'avez pas forcément compris, c'était lors de votre passage à Ajaccio. On est entre 2013 et 2015. C'est Yann Danielou, l'adjoint de Christian Bacconi.
Ouais. C'était un jeu à l'entraînement comme ça, il dit ferme le couloir de jeu direct.
Ferme le couloir de jeu direct.
Ouais.
Ouais. C'est-à-dire?
C'est-à-dire à l'époque on n'avait pas compris. On se regardait comme Cavalli, on se dit mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et en fait, c'est un terme d'entraîneur. Voilà, c'est l'espace entre le ballon et le but.
D'accord.
Si tu veux, c'est ferme les intervalles, voilà, tout simplement. Mais c'est ce qu'on nous apprend quand on passe les diplômes d'entraîneur et ça reste. Ouais. Quand t'es joueur, t'as du mal à le comprendre au début.
Ouais, pardon, mais vous étiez fraîchement diplômé. Est-ce que dans vos premières séances comme ça, vous aviez ce langage-là, vous aviez un savoir que vous n'aviez pas encore totalement digéré et vous parliez des termes techniques et que les gens ne vous comprenaient pas?
Non, ça, on évite.
Vous évitez ?
Ouais, j'ai
déjà
évité, d'accord, je dirais que j'évite.
Maintenant que vous êtes coach, quel est le coach que vous avez eu et que vous aimeriez être ? Vous en avez eu beaucoup, hein, des Fernandez, des Lacombe, des Rudy, des... voilà. Est-ce qu'il y a un joueur, un coach qui vous a marqué ?
Il n'y en a pas un, c'est un mélange, on va dire.
Ah ouais ?
Voilà, prendre...
Alors, qualité de...
Jean Fernandez, la capacité à faire travailler une équipe, à faire progresser les jeunes joueurs. Mmh. Guy Lacombe, la qualité de jeu, le plaisir qu'on prenait sur le terrain, c'était vraiment incroyable, sa capacité à analyser l'adversaire. Mmh. Les entraînements aussi, un vrai régal.
Un manager ? Parce que là, pour l'instant, c'était des techniciens, ouais. La qualité des séances, la qualité à faire progresser. Est-ce qu'il y a des gens qui, je sais pas, humainement, joueur, personnellement, vous ont touché, enfin, ou pas, hein, d'ailleurs, hein.
Aussi Jean Fernandez.
Oui, ouais.
Parce que voilà, pour moi, c'était quelqu'un de particulier qui m'a lancé, qui m'a redonné après une deuxième chance à Auxerre quand j'étais un petit peu plus en difficulté. Donc voilà, il savait faire adhérer une équipe et qu'on avait envie de le suivre n'importe où il allait. On aurait foncé dans un mur pour lui.
Il y a des phrases que vous avez prises, il y a des trucs, il y a des causeries, il y a des choses comme ça.
Non.
Il y a pas des...
Non, si c'était les anciens joueurs qui l'ont connu, c'était commande. c'était la récupération du ballon. Et quand t'avais un mec qui arrivait à récupérer un ballon dans les pieds de l'adversaire, c'était son geste.
Et maintenant que vous êtes coach, est-ce que vous avez un regard différent avec des coachs que vous jugiez mauvais ? Vous savez quand.
Non, j'en ai pas jugé mauvais.
Non mais. Mauvais. Finalement, vous dites.
Vous n'avez pas tort.
Le gars, c'était injuste et finalement, vous dites. Je suis passé de l'autre côté et j'avais pas tort.
Ouais, c'est vrai. Non, je me dis.
Alors, c'était qui c'était... Ah, c'était qui bah, non, ça va lui faire plaisir en tout cas.
J'ai sûrement été chiant avec Guy Lacombe.
Ah ouais ?
Ouais.
Pourquoi ?
Bah parce que j'étais, tu vois, dans tous les jeux, toutes les consignes, j'étais là pour essayer de trouver la petite faille qui allait embêter, pour trouver quand ça me plaisait pas, je montrais que ça me plaisait pas et c'était pas bien.
Ah, vous boudiez.
Ouais, j'étais capable de bouder.
C'est vrai.
Mais c'était pas bien parce que j'étais le capitaine de l'équipe et tu dois montrer l'exemple et tout. Et je sais pas combien il fait pour me supporter. Mais...
Tu ne serais pas supporté, toi.
Comment ?
Tu ne serais pas supporté.
Non, je me serais mis 2-3 charges quand même.
On a peut-être un petit message, Tanguy ?
Bien sûr.
Ah oui, voilà.
Quel est votre plus beau but ? C'est une question sur l'équipe connaître de Gauthier Main. Est-ce que c'est celui contre le Paris Saint-Germain, version QSI, le saison 2013-2014, avec l'AC Ajaccio ?
Ouais, celui-là était très bien. J'en ai mis deux qui me reviennent, celui-là et puis un avec Marseille à Nantes. J'avais marqué dans la saison 2004-2005. Mais celui-là était bien, deuxième journée du championnat.
Celui-là, on avait prévu, c'était contre le PSG, c'est pour faire plaisir à Pierre.
Hein, c'est sympa. Hein.
Toujours là.
J'apprécie.
Le poison, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Vous savez qu'il a failli jouer à Paris, hein. Il a failli signer avec Vaïd.
C'est vrai.
Non, mais c'était à l'époque de...
Vous dites non. Ils disent non, mais c'est oui.
Non, c'est après Sochaux, voilà. J'avais le choix entre Paris, Lyon, Marseille. Et, voilà, j'ai choisi Marseille. Et c'est vrai que j'étais à Paris rencontrer Vaïd et puis le président Gray.
Et je me souviens de ça ce soir. Vous aviez vraiment choisi parce que la rédaction de l'équipe était à feu à sang. Certains vous envoyaient à Lyon, d'autres à Marseille. Ouais, à Marseille,
c'est une légende française.
Ah, bah non, mais c'est pas une légende. Mais est-ce que vous étiez très investi à ce moment-là ?
Ouais, c'était. Oui,
on peut le comprendre.
Très investi. En fait, je jouais à Sochaux à l'époque et j'étais à l'hôtel à Lyon. Parce qu'on était proche de Lyon, parce que des gens de Marseille étaient montés. Et tu vois, il y avait un peu un amalgame. Mmh. Voilà. Ouais. Il y a un choix qui s'est fait tard dans la nuit.
Voilà.
Ouais. Après que les rédactions ont été bouclées.
Oui, d'accord. Et votre plus belle fête, c'était après quel titre ?
La Coupe de la Ligue.
Avec Sochaux ?
Avec Sochaux.
Ouais, avec Sochaux. Pourquoi ? Parce que c'est la formation.
On avait perdu un an avant avec Sochaux, justement, Coupe de la Ligue. On ne pensait jamais y revenir. Et finalement, on gagne ce trophée avec les copains. Et on savait que la plupart, on allait quitter le club. Puis le président Plessis nous aimait bien. Il nous aidait bien aussi à finir les soirées.
J'ai découvert un établissement nocturne parce que je ne suis pas du coin. C'était la belle époque, il paraît.
Oui, il n'y en avait qu'un.
Ouais. Vous n'avez pas le choix.
Tu as découvert l'établissement nocturne.
Allez. Voilà, c'est ça.
Tu te souviens, c'était la petite belle commune de Matay. Voilà, la belle époque de Matay. Bah oui, j'ai googlisé tout ça parce que si je passe dans mon coin, voilà.
Mais Jean-Claude Plessis, c'est la première fois qu'il y allait, je pense.
Le moment où vous êtes senti le plus fort, c'était à Auxerre. D'ailleurs, Greg l'a rappelé lors de la saison 2009-2010. C'est bien ça. Et qu'est-ce qu'il y avait dans votre jeu, qu'est-ce qui se passait ?
Plus d'expérience par rapport à l'époque de Sochaux. Et puis, pareil, une équipe qui marchait hyper bien avec Jalen devant. On s'entendait comme avec Pierre-Alain Froy à l'époque de Sochaux. Mais on sentait qu'on était une équipe collectivement très forte et que presque rien pouvait nous toucher. Donc, quand, quand dans ta tête, tu te sens fort et que tu sens l'équipe derrière toi, tu prends énormément de plaisir à être sur le terrain.
Autre question ?
Justement, sur cette période à Auxerre, c'est LJH Moutou sur l'équipe Connect qui vous dit ça. 2010 à Auxerre était une de vos meilleures saisons. J'ai été déçu de ne pas vous voir à la Coupe du Monde. Est-ce que vous partagez ce sentiment ?
C'était 2010, hein ?
Ouais, c'était 2010. À un moment donné, il y a eu...
On n'a pas été loin.
Comment ?
Non, c'est...
Ouais, il y a eu quelques blessés en équipe de France et j'aurais presque pu y revenir, mais c'était Laurent Blanc, il me semble, à l'époque, et il avait fait d'autres
choix. Non, Raymond Domenech, 2010.
Non, mais après. Après.
Ah, c'était après.
Non, c'était après.
Ah, c'était après, d'accord. Ah, c'est après, d'accord. Non, parce que, bah oui, mais la Coupe du Monde 2010, c'est notre Raymond qui l'a fait.
Oui, oui. Mais c'est juste derrière, en fait, ça s'est posé.
C'est ça, c'était juste après.
Ah, c'était après. Ah, c'était la relance, oui.
C'était et Laurent Blanc, il me semble.
Ah, Laurent Blanc, après, oui.
Après, il a fait d'autres choix en prenant des joueurs plus jeunes et j'ai pas eu une chance de revenir en sélection.
Mais pour répondre à nos téléspectateurs, c'était bien l'idée de faire la Coupe du Monde.
Tout à fait.
Hein, on est bien d'accord. Non, l'idée de faire la Coupe du Monde, ça vous a pas hanté.
Ah, déjà, il faut essayer d'y revenir. Ouais. Mais non, ça m'a pas hanté du tout.
Non, ça m'a pas hanté.
Ça a hanté certains, la Coupe du Monde, après.
Oui, bah oui, oui. Enfin, votre plus grande fierté, c'est d'avoir évolué avec Zinedine Zidane. Racontez.
Bah oui, c'est une énorme fierté. Quand en 98, en 2000, t'as rêvé devant ta télé en les supportant, se retrouver sur le terrain à côté de lui, c'est hyper, hyper impressionnant. C'est énormément de plaisir à chaque entraînement, à chaque passe, tout simplement. Et puis, c'est marrant, t'as des anecdotes maintenant. Tu vois, les gens de notre âge, ils ont des gamins. Puis, tu connais le monsieur là? Puis, ils disent, ah non, c'est qui? Il a joué avec Zidane. Ah ouais, il a joué avec Zidane. Voilà, ça reste.
Il était comment avec les jeunes joueurs?
Ouais, il était top, il était hyper accueillant, beaucoup d'empathie envers nous, voilà, vraiment proche, il nous aidait.
Et il était vraiment
très, très bien.
cette photo est incroyable parce que vous faites gamin là. Ouais, non, avec Zizou là, non, il y a un homme, un gars, non, mais je.
Ah non, c'est
incroyable.
Sûr.
Hein
c'est sûr.
Il est impressionnant. Vous êtes, ouais, est-ce qu'on est intimidé quand on est face à lui?
Oui, c'est sûr.
Ouais.
Ouais. Ouais. Le premier jour où tu le vois, tu vas serrer la main, bonjour, tu vas au petit-déj, tu vois. C'est... Je n'ai pas beaucoup dormi la nuit d'avant. Mais non, mais tu vois, c'est nos idoles, ouais, c'est rêvé, tu vois. Pour moi, c'était Zidane, Thierry Henry, Thuram, les joueurs comme ça, Vite de Sailly, enfin, tous, ouais, c'est des légendes. Et se retrouver à leur table, ouais, c'est impressionnant. Mais quel plaisir! Quel honneur d'avoir été sur le terrain avec eux.
Okay. Mais ils disaient la même chose de toi. Hein. J'aurais parlé un peu.
Merci beaucoup, Benoît Pedretti. Dans quelques minutes, on va revoir les meilleurs moments de la semaine. Et cette année, nous aussi, on a la barre. On a un arbitre professionnel, chevronné, qui est là, qui a regardé toutes les analyses, les petites choses, et parfois les petites choses qui ne vont pas. Donc l'arbitrage va arriver dans quelques minutes. Parce qu'on a... Ah bah voilà, regardez,
ouais,
il arrive en direction du plateau. Bonsoir monsieur Andréani, on marque une pause, dans quelques minutes on revoit les meilleurs moments de la semaine. À tout de suite. Retour sur le plateau de l'équipe du soir, notre invité est Benoît Pedretti, le président Benoît Pedretti. Tanguy Le Sévillier, vous êtes là, vous avez un œil partout, et notamment du côté de la rédaction du quotidien L'Équipe. C'est quoi la une de demain?
Avec la une de ce samedi, c'est Christophe Galtier qui est en une. J'ai été victime d'une vengeance après ce qui s'est passé du côté de l'OGC Nice.
Il y a un Fournier qui va être prononcé dans l'interview. Et à l'équipe du soir, on adore les arbitres, on fait souvent des débats, mais celui-là, on l'adore vraiment, c'est monsieur Andréani. Il revoit les meilleurs moments de la semaine. Ça s'appelle la VAR de l'équipe du soir. Monsieur Andréani va rentrer, mais juste après le jingle. Hein.
Non, c'est
bonsoir, président.
Ce premier pas de plus en plus fantastique. Bonsoir, monsieur Andréani. Avez-vous noté des choses, on va dire, illicites dans cette émission-là? Combien de commentaires?
Écoutez, oui, mais je vais être obligé de faire un retour sur Timothée Mémon. C'est le seul envoyé spécial qui n'a rien de spécial à dire, en fait. Du coup, on écoute.
Mémé, hein.
Coup de danseau qui est sorti à la pause. Les adducteurs ont sifflé, ont craqué, ont voilà. Si Timothée pour avoir peut-être un complément d'information, alors c'est médical, il faut peut-être attendre un petit peu 24 heures ou 48 heures. Mais est-ce qu'il y a déjà un diagnostic, Timothée? Soit vous avez la réponse, soit on patiente et puis vous lui donnerez l'info un peu plus tard. C'est ça, Timothée? Vous l'avez ou pas?
Je pense qu'on on va devoir patienter.
Ok, voilà.
Un peu tôt.
Docteur Mémon, merci.
Merci beaucoup, Timothée.
Kevin Danso, saison probablement terminée, c'est ce que nous a soufflé Francaise en conférence de presse. Très
bien. Plus d'infos que Timothée Mémon, du coup.
Ah, oui, bah, c'est l'entraîneur.
Et d'ailleurs, si vous voulez plus d'envoyés spéciaux, les amis, il faudra rester, puisqu'on a une nouvelle rubrique spéciale.
Ah ouais,
j'en dis pas plus.
D'accord.
Mais pour moi, je vais siffler le coup d'envoi de la VAR de cette semaine. On y va. Et comment ne pas commencer la VAR avec le camion de la VAR, alias la régie, qui était en grande forme. D'abord, quoi, il faut montrer des beaux tifos comme celui du Bayern, hommage au grand Beckenbauer.
C'est vraiment, c'était... Ah ouais. Voilà, vous pouvez nous raconter, vous étiez à peu près au courant, qui a fait ça, parce que franchement, c'était mais magnifique, hein. Non, magnifique. Hein.
Très bien, là, on ne sait pas comment.
Oui, c'était une régie niveau Ligue des Champions cette semaine.
C'est énorme. C'est dur, c'est dur. La caméra va se diriger vers vous.
Super duel. Ouais. Elle n'est pas là, la caméra. Bon, ça va. 1, 2, 3.
Ah,
de plus en plus.
Un coup de sonnette.
Ouais. Là, c'est, ouais. Bah, c'est la Ligue Europa, c'est pas la Ligue des Champions.
C'est vrai, mais d'un autre côté, c'est la Ligue Europa. Bon, heureusement que c'est pas la Ligue Conférence, je serais derrière. Là.
Ah, bah là, il n'y a rien sous le dos.
Mais il n'y a pas que la régie qui était niveau Europa. Oui, vous aussi, mémé, on n'a pas hésité à vous le faire remarquer.
C'est vrai. Jordan Verretou a réagi au micro de nos amis de Canal.
Non, c'était nos amis d'RMC Sport.
Merci de me corriger en direct, c'est toujours agréable.
Et en parlant de choses agréables, zoom sur les situations jellicites de la semaine, les moments où Nabil tente l'humour. Oui, j'insiste sur le mot tente.
En pleine bourre.
Il y a qui derrière ?
Une gêne musculaire,
donc on verra s'il est apte pour...
C'est Bergame, c'est pas gêne hein, qui Marseille joue, rassurez-moi.
C'est très drôle, mais...
Peut-être était mieux.
J'ai beaucoup aimé.
Mais attention, Nabil, c'est aussi un homme humble qui n'aime pas se mettre en avant, surtout quand on parle pronostic.
Bah, ici, je vous dis que l'OM finit pas sixième, dans le plus grand cas.
Septième ?
Enfin, la place dont on parle depuis tout à l'heure. Et ça se relance. Il y a un moment, il faut se mouiller. Il faut sentir les choses. Et il y en a qui les sentent mieux que d'autres. Et j'en fais partie.
Lens, ils ont gagné. Pour le moment, vous avez raison.
Bah,
vous avez
raison, Nabil. Ils sont partis pour être sixième. Ils ont gagné ce soir. Donc,
et d'ailleurs, Nabil.
Encore, j'avais vu juste.
Je peux, alors, pour l'intérêt de la rubrique, est-ce que vous pouvez peut-être nous faire un prono pour la finale avec des champions de l'Europa League? Comme ça, si jamais vous ratez, ce sera là.
Alors, la finale que tout le monde espère, Bayern-Dortmund. Et pour l'Europa League, je vois l'OM faire tomber l'invincibilité de Leverkusen.
Très bien, c'est noté.
Voilà, donc,
et s'il y a une erreur, on reviendra dessus la semaine prochaine.
Il y a déjà deux erreurs, je peux te le dire tout de suite.
Attention.
C'est sûr.
Mais pour le moment, les amis, nouvelle séquence, c'est le moment de mettre en avant un homme qui n'est pas toujours avec nous en plateau, mais pourtant on l'adore. C'est le Giovanni Castaldribble. On y va.
Ah oui.
Oui, le Giovanni Castaldribble en direct de Dortmund, c'est un Giovanni qui sait parler, notamment du journal L'Équipe.
On essaiera d'en avoir plus, notamment avec les copains du journal qui suivent le Paris Saint-Germain. Je pense que c'est important d'aller sur l'équipe.fr et d'acheter le journal.
Okay, voilà, mémé.
Il est meilleur que moi, pour cirer les pompiers. Il est bon, il fera une plus grande carrière que toi, Bertrand.
C'est magnifique. La direction vous augmente.
Tout est prêt pour l'année prochaine. Bravo, Giovanni. C'est bien joué. Bon boulot. Bon, après, cependant, il n'y a pas que des amis à Giovanni, comme quand, tout simplement, il a voulu parler de l'entrée de Colomoigny. Il a subi un véritable sabotage.
Qu'est-ce qu'il va me répondre? Non mais honnêtement, moi je veux bien, je comprends l'idée de mettre...
Il s'énerve.
Ah voilà, sabotage.
C'est un complot.
Hein,
oui, en plus, on se disait ça.
Et si vous vous demandez chez vous comment devenir vous aussi un Giovanni Castaldribbler, c'est avant tout la taille qui compte.
Il est impressionné par la taille de votre micro, Johan Mico.
C'est
un sacré...
Quel micro?
Ouais, un sacré micro. Ah, c'est les mêmes,
je sais pas. Ils n'ont pas sorti un micro pour...
Non, mais c'est là, ça m'impressionne sur
l'écran. Non, c'est de belle taille.
C'est un micro de très mince.
Et durant la soirée, à force de parler du micro de Giovanni, un supporter de Dortmund s'est senti obligé de le toucher. Attention, les images peuvent choquer.
Ah, c'est Giovanni Castaldi. Giovanni, bonsoir. Ah oui. Vous avez vu le match donc
Oui, pose à la barre. Dans le domaine, on appelle ça la main de Dieu. Est-ce qu'on peut remettre l'image au ralenti, s'il vous plaît?
Il va venir lui faire l'amour préliminaire.
D'ailleurs, c'est pas la première fois dans l'équipe du soir qu'on est confronté à ce genre d'attaque. Et déjà en 2018, le règlement était très strict.
Ah. Et moi, je trouve que c'est bien que dans une émission comme l'équipe du soir, on puisse échanger sur des débats très accessibles. Mmh. Voilà, sur le football et les comédies du foot. Donc moi, je suis ravi. J'attends de pied ferme l'ami de Philippe Sanfourche.
Excusez-moi, il y a Dominique Sévrac qui fait un chabit en direct. Non, c'est dans les règlements, dans la charte déontologique de l'équipe du soir. Voilà, les chabits sont interdits.
Voilà. C'est important, donc on embrasse bien sûr Bertrand, Giovanni en espérant. Bah, je vais enchaîner, je ne peux pas faire mieux de toute façon. D'ailleurs, on va avoir d'autres choses qui méritent des cartons rouges, comme cette vanne de Nabil. C'est les jeux dangereux de la semaine, on y va.
Exactement au bon moment, et c'est lui qui provoque la passe. Et on sait que, évidemment, Kroos est capable de la faire, mais des passes comme ça, même Jomikou pouvait la faire.
Mais après, je peux comprendre que, voilà, l'ancien numéro 6 laborieux comme Ludo s'y retrouve, et voilà, à travers.
Mais bon, je pense que ça doit être dans son contrat. Non, il doit le faire rajouter. Je dois dire 2-3 bêtises dans une émission, est-ce que j'ai le droit?
C'est vous en dites. Vouloir essayer de terminer l'action, tu l'as plus. Ça, forcément, tu l'as plus. Parfois, une mémoire sélective, Johan. Peut-être c'est l'âge.
Non, enfin, je reviens sur toi. Non, c'est oui ou non. C'est pas plutôt.
Oui, c'est vrai. La vie, c'est comme ça. Hein. C'est blanc, noir.
Bah, oui. Soit t'es des avis tranchés, soit sinon tu fais pas l'émission.
Non, je pense.
Respect
de l'âge, par contre. Tu commences et tu te tais.
Je trouve que tu manques d'antenne en ce moment. Vas-y, sprint-toi.
Okay.
Tu peux nous faire un
demi-tour. Je laisse voir ça avec la direction, le troisième étage, elle est présente.
Ok, très bien.
C'est rare à cette heure-là.
On embrasse bien sûr la direction qui est présente ce soir.
Bien sûr,
évidemment. Et pour conclure, qui seront les joueurs suspendus cette semaine? C'est la commission de discipline. Et pour un match de suspension, c'est Didier Roustan, oui, car cette semaine, il voulait faire court, Didier.
On fait un super duel. Il y a Didier, on fait un super duel.
Ah, bah, duel, ça va être du blabla pour du blabla. On pourrait régler ça en 15 secondes.
Alors qu'on pourrait donner un podcast à Didier.
Et quand les chroniqueurs de l'équipe du soir se sont tous prononcés pour dire que le PSG allait se qualifier la semaine prochaine, Didier a encore voulu faire court.
Ce PSG-là, un peu trop beau.
Ça vaut pas le coup de jouer le match retour.
Hein ?
Ça vaut pas le coup de jouer le match retour, c'est gagné, non ?
Voit-on ce PSG trop beau dans quelques minutes ? On donnera la parole.
Parce que c'est impossible. Dites-moi, je regarde pas le match, je vais préparer une soirée. Je passe au cinéma. Je veux voir le théâtre, justement.
Bon, allez, un match de suspension, temps de retrouver sa bonne humeur. Et puis pour deux matchs de suspension, c'est notre ami Eric Blanc avec des nouvelles reconstructions. Tout d'abord, quand il nous explique comment fonctionne le football.
Je veux dire, le foot, c'est comme l'amour. Tu te souviens plus la première fois que de la sixième. Après, pour dire ça, pourquoi je dis Enrique ?
Eh oui, Eric, ce n'est pas qu'un romantique, c'est aussi un patron qui n'hésite pas à offrir des stages.
Ah. T'as 34 ans, t'es jeune, tu raisonnes comme une vieille. Non, mais c'est hallucinant. Non, mais tu pourrais être ma fille. Tu pourrais être ma fille, elle a 32 ans. Je lui dirais, change de logiciel, c'est pas possible quand je t'entends. Karine, réveille-toi. Je vais te prendre en stage. Non, je vais te changer, moi. Je vais te changer, ta vie va changer.
Allez, demain, je suis pour ça pour le mettre de stage. Pour trois matchs de suspension, celui qui ne s'est mis aucune limite de la semaine, c'est Bertrand Latour. Déjà, Bertrand, c'est un mec qui bosse.
Vous êtes prêts, mes petits chroniqueurs à noter ?
Bien sûr qu'on est prêts.
Ouais, vous étiez en train de faire un petit texto, là.
On travaille, Olivier, vous êtes gentil. Vous croyez que l'équipe de choc, ça se prépare comme ça, vous, demain 4h50 mais vous êtes gentil.
Oui, je suis très gentil, regardez. Voilà, c'est pour vous.
Sévère aussi.
C'est pour très sévère.
Ouais, c'est aussi un mec qui aime un peu trop les jeux, Bertrand.
André Ayou, 3 points pour Bertrand Latour.
Il est très jeune.
Oui, au bout d'un moment, mais vous en avez eu marre, alors vous avez dû agir forcément.
On est là, le duel est maintenu.
Non, il est chaud faire, là. Il est chaud, il veut faire très confiant.
T'as peur, quoi, là.
Confiant, c'est mieux.
Il est très confiant. T'as peur ou quoi, mais là.
Il est très confiant.
Kenji Latour, silence.
Ah oui, Kenji Latour, il a un vrai business à faire. Hein. Bravo. Allez, 3 matchs de suspension pour Kenji Latour, on évite les armes et puis on se dit à la semaine prochaine forcément. Faire gaffe quand même.
Merci pour le conseil, merci.
À la semaine prochaine.
Excellent arbitre joué au Hugo André Ami, merci beaucoup.
Le meilleur arbitre français.
C'est rare pour vous, ça. C'est pas la barre ici.
Mes amis, nous allons jouer à présent en l'honneur de notre président.
Ah,
étonnant. Le président Pedretti. C'est très simple, c'est les Benoît dans le sport.
Ah.
Il y a les jokers. Benoît, vous avez les deux jokers. Alors, en cas de mauvaise réponse, vous l'activez et vous revenez dans le jeu une fois. Et si un adversaire qui se détache un peu trop, vous l'éliminez pour une question.
On s'attendait à ceux qui ont joué avec Benoît Pedretti. On se retrouve dans Benoît dans le sport.
Les Benoît dans le sport à présent. Attention, un Benoît à trouver. Je suis milieu de terrain.
Benoît Chéroux,
c'est une excellente réponse de Grégory Schneider.
Bah, très bien, on peut enchaîner.
Les Benoît dans le sport, je suis formé à l'Olympique de Marseille. Pour 4 points.
Benoît Assuécoto.
Benoît Assuécoto, c'est une mauvaise réponse. Vous êtes éliminé, si vous voulez revenir, oh, vous activez votre Marseille, joker.
Formé ouais, je vais l'activer.
Vous l'activez, vous disparaissez et vous revenez. Il revient en jeu. Je suis formé à l'OM, ce n'est pas Benoît Assuécoto, mais j'ai joué au Paris Saint-Germain. Benoît. Pour 2 points, se rappelle surtout de mon passage à l'Inter.
Coé.
Benoît Coé. Oh, bonne réponse, 2 points pour Hervé Penaud.
Je ne savais pas qu'il avait été formé à l'OM.
Les Benoît dans le sport, attention, un indice pour 4 points. J'ai aujourd'hui, enfin aujourd'hui, cette année, j'ai...
Benoît Père.
34 ans, Benoît Père. 4 points pour Hervé Penaud.
Solide.
Attention. Un autre Benoît dans le sport à découvrir. Je suis devenu une star en 2023 pour 4 points. C'est un Benoît dans le sport. Hein. Dans le sport, j'insiste bien.
Benoît Saint-Denis.
Oui. Benoît Saint-Denis. Ah, bravo. Excellente réponse. La star de MMA. C'est bien joué. Benoît Saint-Denis. C'est un uppercut gagnant de Nabil Djellit.
Bien joué.
Attention, mes amis, les Benoît dans le sport. Un indice pour 4 points. J'ai joué 407 matchs en Ligue 1. De qui s'agit-il ?
Tu as le droit de jouer ?
Oui, bien sûr.
Benoît Pedretti ?
C'est peut-être moi.
Ouais.
Ah, Benoît Pedretti ?
Il était en premier, je crois.
Elle l'a dit,
ouais. C'est Pierre qui marque le point. J'ai le droit de jouer. Et oui, Benoît, tout de suite, réaction. Et c'est Pierre qui vous donne le point. Ça fait 4 points. Pierre est là.
Il n'y a pas la vidéo, il est parti l'arbitre. J'ai dit c'est moi avant.
Il a dit c'est moi.
On a l'arbitre vidéo qui nous confirme que c'est Pierre.
Ah, oui.
Vous pouvez éliminer si. Voilà. Vous
mais
pouvez
éliminer quelqu'un. Il y a 6 points.
Attendez.
Non, il
est... On continue. On continue. Je suis formé à Bordeaux.
Benoît Trimoulinas.
4 points pour le président Pedretti. Bravo à vous, Benoît. Attention.
C'est rarement été aussi.
Lors des 3 dernières saisons, j'ai connu 3 relégations. Benoît dans
Benoît Costil.
Benoît Costil, 4 points supplémentaires pour le président Pedretti.
Heureusement qu'il a joué.
Tu peux t'éliminer, celui-là.
Attention, à Benoît dans le sport, je n'ai joué que 2 fois en bleu. De qui s'agit-il, Benoît? Mais je n'ai que 23 ans. Ça vaut 3 points, deuxième indice.
Benoît Badiachi.
Benoît Badiachi.
Je peux le dire plus fort.
Excellent. Oh,
et confiance en toi. Et confiance en toi.
Attention, un Benoît, mais c'est un truc assez vicieux.
Ah oui, bah ça.
Pour 4 points, je suis dans le foot.
Oui, oui.
Mais je ne joue pas. 3 points.
Bah oui, on se doute.
Eh oui, bah oui, on se doute. Cette saison, on s'est moqué de ma coupe de cheveux.
Benoît Millot.
Benoît Millot, bravo. Ouais, on s'est moqué, voilà. Ça fait 2 points supplémentaires pour le président.
Bravo.
Attention pour la dernière. La dernière, Benoît peut gagner.
Mais tu devrais éliminer Greg, en fait.
Est-ce que vous pouvez jouer ?
Éliminer Greg, ouais.
Voilà. Non, merci. Voilà.
Et donc c'est un combat entre toi et moi.
Il n'y a pas de combat.
tu vas voir ça.
Attention, j'insiste, les Benoît dans le sport. Je suis champion du monde espoir en 2017. Les Benoît dans le sport.
T'es cuit, Hervé.
Ah ouais, je crois que je suis cuit.
Benoît, je suis cuit.
Très bon.
Non. C'est...
Champion du monde de quoi, pardon?
Espoir. Je suis champion du monde en espoir en 2017, mais attention, pour 3 points, c'est en cyclisme sur route.
Alors là, je peux partir tout de suite.
À 28 ans, je n'ai jamais quitté ma formation, la formation AG2R.
Benoît, c'est pas Godefroy?
Godefroy.
Ou un truc comme ça?
C'est un truc comme ça.
Godefroy.
Cosnefroid.
Il faut lui donner.
Ah non. Bah, de toute façon, c'est 2 points. De toute façon, c'est gagné.
Ouais, non, mais c'est perdu. Ouais.
Godefroy, non. Benoît.
Bah, bravo, Benoît.
Désolé pour lui.
Et les Benoît dans le sport, remporté par Benoît Pedretti. On retiendra que vous n'avez pas su découvrir votre propre carrière. Et ça, c'est terrible.
Il n'a pas eu besoin de ça pour gagner le monde.
Merci beaucoup, mon cher Benoît. On vous souhaite bon vent et bonne chance pour votre nouvelle carrière d'entraîneur.
C'est gentil, merci. Hein,
ah, oui. Ok,
merci.
Ouais. Voilà. Bravo. Généralement, ils sont moins fair-play que ça. Hein. Généralement, ils sont beaucoup moins fair-play. On vous embrasse. Évidemment, donc, dimanche, c'est l'équipe du soir. Et puis, nous, on se retrouve lundi pour Lille-Lyon. Il y aura quelque chose à débriefer. On sera la veille du grand match. Paris Saint-Dortmund, où il paraît que Pia n'est pas très, très inquiète. Allez, on vous embrasse. Et on vous souhaite un très bon week-end. Salut et bon vent à Benoît. Ciao.